Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi c'est Hugo, je suis avec mon comparse de toujours Maxime.
Bonjour.
Et je suis aussi avec Benoît alias Exerve.
Hello.
Hello. Ça va messieurs ?
Ça va, ça va.
Très bien, on est très heureux de retrouver nos auditeurs, nos auditrices pour un nouvel épisode, que vous soyez dans les transports, en train de faire le ménage ou même au travail. J'ai appris qu'il y en a qui écoutaient le podcast en travaillant. Eh bien nous sommes très heureux de vous rejoindre dans ce moment privilégié. De venir dans votre esprit comme ça. Et si ça vous plaît, eh bien, vous pouvez donner au Patreon.
Putain, belle transition.
Vous avez vu un petit peu. Vous pouvez nous soutenir sur Patreon. Le lien est dans la description, tout simplement, pour nous soutenir, pour nous aider à produire cette émission de qualité artisanale, indépendante, ou presque. Oui, on est indépendant, on peut le dire. Bah, on est totalement indépendant, pas encore possédé par TF1. C'est en discussion.
Nous, on est indépendant. L'industrie, par contre, dépend de nous, hein, puisqu'on décide dans les coulisses.
On l'a encore vu.
On l'a encore vu avec ce nouvel épisode. Hein. On détermine un petit peu l'avenir de l'industrie du jeu vidéo dans l'ombre.
Ils attendent le feu vert là pour annoncer. Bon, le calendrier était pas tip top, mais bon, on leur pardonne cette fois. Hein.
Ouais. Normalement, voilà, si vous nous écoutez, dans quelques heures, on peut vous l'annoncer en exclusivité. Valve va annoncer un nouveau jeu. Donc voilà.
Non mais alors pour vous dire, effectivement il y a Valve qui vient d'annoncer un truc pour Half-Life, un truc VR pour Half-Life, et donc ça tombe encore une fois pile au moment où on fait un épisode, et voilà, moi je pense qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau astral et qu'on a une influence sur l'industrie, donc voilà, vous nous écoutez, vous êtes les privilégiés, vous entendez la voix de la vérité. Donc soutenez-nous,
soutenez-nous
sur Patreon. On remercie également notre sponsor pour de vrai cette fois-ci, Third Edition, la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo.
Mais pas que. Tu m'as pas regardé.
Non, je savais pas, ça suffit. Ça suffit maintenant.
Mais pas que. Mince.
Voilà, c'est triste que je vois. Il y avait ce petit numéro préparé depuis longtemps. C'est la fin.
C'était spontané la première fois. C'était spontané. Après, c'est devenu.
Non, mais il faut surprendre les gens. Il ne faut pas les laisser comme ça.
Tu vois, c'est le quotidien qui nous a tués, Hugo.
C'est la routine.
La routine, hein, tu vois, la répétition.
Sur les dinos, c'est fini, il n'y a pas de raison que vous, ça tienne encore.
Oh okay, mon d'accord. Dieu, vous voyez les bonnes références de Max.
Et après, on se moque de moi quand on dit que je suis vieux.
Oh, mais attends, j'ai envie de faire une imitation de sur les dinos.
Non, retiens-toi.
Du coup, je ne sais plus d'où ce que je voulais dire.
On disait merci à Third Edition.
On disait merci à Third Edition. Il n'y a pas eu de livre encore sur Portal.
Il y en a eu un sur Half-Life, par
voilà,
exemple.
Donc oui. Si vous voulez éventuellement avoir déjà un gros background sur l'histoire de Valve et puis éventuellement vous intéresser à Half-Life, petit jeu aussi, je ne sais pas si on en parlera peut-être un jour dans l'émission. J'espère pas parce que j'ai pas envie de le faire, mais...
Et à côté de ça, on a Max qui est en train de tressaillir parce que c'est un de ses jeux de la vie.
Ouais. Oh, après, ma nostalgie, elle est aussi bien là où elle est, mais je suis prêt.
Très bien, alors si tout ça c'est dit, on va pouvoir commencer à parler de Portal 1 et 2. On avait déjà fait un épisode sur les Souls, on avait fait toute la saga, on s'était rendu compte que c'était peut-être pas
un
petit peu ambitieux. On va voir comment on arrive à se débrouiller avec deux épisodes d'une même série. Et ben, on va lancer ça juste après une petite musique et puis c'est parti pour un nouvel épisode. This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture Science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat plan for the people who are still alive. I'm not even angry. I'm being so sincere right now. Even though you broke my heart and killed me, I'm torn into pieces and threw every piece into a fire. As they burned, it hurt because I was so happy for you. Now these points of data make a beautiful line, and we're out of data, we're releasing on time. So I'm glad I got burned. Think of all the things we learned for the people who are still alive. Donc, Portal qui est sorti en octobre 2007, le deuxième épisode est lui sorti en 2011. Portal qui faisait partie de l'Orange Box à la base, qui était une espèce d'offre qu'avait fait Valve à l'occasion de la sortie de l'épisode 2 de Half-Life 2, hein, ça fait tout à fait sens. Il y avait aussi Team Fortress 2 à l'intérieur, plus je crois que tout un bonus.
Bah, il y avait aussi du coup Half-Life et épisode 1, en gros c'était l'idée de mettre dans un seul bundle, t'achetais la boîte, t'avais tout pour un prix qui était quand même intéressant, et bah, du coup t'avais de base Half-Life 2, et en bonus t'avais donc Team Fortress et Portal, qui était vraiment au départ considéré comme une espèce de petit cadeau.
Tu sais, ouais, c'est totalement,
le,
c'était
le
vraiment
petit
le
gadget
bonus,
que t'avais dans la boîte de lessive. C'était, non, mais c'était presque ça. Hein. Vraiment, ça a été considéré comme ça. C'est devenu un jeu culte par la suite. Mais au départ, il n'avait pas, peut-être pas autant d'ambition pour ce jeu-là. Quoi. Ouais.
Sachant qu'à la base, du coup, en fait, Portal, c'était un jeu étudiant. Alors, c'est une histoire qui est quand même assez connue, mais le jeu étudiant, il s'appelait Narbacular Drop.
Bravo.
Vous pourrez aller voir sur YouTube, voir la tronche un peu qu'il avait. C'était en fait un jeu bah, tout simplement du nez de d'un groupe d'étudiants, puisque en général dans les formations jeux vidéo, à la fin du cursus, bah, l'idée c'est quand même de produire un jeu. Ce jeu-là, il a très bien fonctionné, ils ont gagné un prix à l'IGF, donc l'Independent Game Festival, ils ont gagné le prix du jeu étudiant tout simplement, et ça leur a permis de se faire remarquer par Valve. Ils sont allés pitcher le jeu à l'intérieur des locaux, et Gabe Newell les aurait arrêtés en plein milieu de leur pitch pour leur dire « Ok, arrêtez tout, c'est bon. »
J'imagine, il arrive, il y a son auréole, il y a l'aura tu vois qui arrive de
avec
Gabe
les
Newell
soldes, les, ouais. Les pourcentages qui tombent autour de lui
comme ça, et ses éternelles sandalettes hein, parce que comme tous évidemment. Les milliardaires il est en sandalettes,
et donc il aurait été très vite convaincu par la mécanique, puisque bah effectivement il y avait déjà ces idées de portail, il y avait déjà même cette couleur le bleu et le orange, même si c'était quand même déjà une esthétique qui était vraiment très différente. Ça ressemblait à un jeu un petit peu style moyenâgeux, c'était de la lave et des cailloux marrons quoi.
Les portails c'était des grosses portes en pierre avec ouais. Une grosse bouche, je crois, peut-être des yeux au-dessus, enfin bref.
Ça n'avait pas la même esthétique, et puis il n'y avait pas tout à fait non plus les mêmes mécaniques, bon, on en parlera par la suite, mais la mécanique là, de fringing, là, c'est-à-dire l'espèce de moment de vitesse qu'on conserve en se baladant entre les portails, ça c'était pas encore dans le... Les puzzles n'utilisaient pas ça, c'était vraiment très simpliste, c'était vraiment juste passer naviguer dans des espaces un peu labyrinthiques grâce aux portails.
Mais ça résume bien le concept des jeux étudiants, parce que bon, y a énormément de jeux étudiants ou de jeux de jam qui posent en fait une idée de base, hein, vraiment une mécanique core comme ça, et après ça va être développé, et à force d'itérer on va arriver sur des jeux vraiment grand public, il y en a enfin qui ont commerciaux, et bah, du coup c'est intéressant de voir que juste avec une petite idée, bah, ils ont réussi à faire un jeu qui est finalement culte aujourd'hui quoi.
Et alors il y a quand même des personnes de chez Valve qui ont travaillé dessus, puisqu'il y a au moins deux auteurs qui sont venus se greffer sur le projet. Alors j'ai plus leur nom sous les yeux, alors je crois que c'est
Eric Walpo,
voilà,
et Chet Falicek.
Voilà, donc on les embrasse
et bien sûr
et
on pense à eux,
qui ont bossé notamment bah, sur Half-Life, hein, tout simplement, Half-Life 1 et 2, et qui...
Oui, parce que si jamais Valve, c'est un petit studio...
Effectivement, peut-être qu'on devrait le réintroduire, vous
qui
savez...
Qui a fait ce petit jeu qui s'appelle Half-Life.
Oui, et puis ce petit, vous savez, sur Internet, on peut télécharger un truc qui s'appelle Steam,
ouais.
Apparemment, et on peut acheter des jeux.
Un jour, tout le monde aura ça. Hein.
Ouais. Ouais, c'est possible.
Ouais, ils
ont moi,
réutilisé...
j'y crois pas trop, mais...
Bah, ils ont aussi lancé des petits indépendants, tu vois, des petits joueurs qui faisaient des mods, ça s'appelait Counter-Strike. Dota, enfin voilà, bon, c'est des gens pas très connus de vidéo.
Non, mais en tout cas, tout ça pour dire que voilà, ces deux auteurs se sont greffés sur le projet et ils ont quand même un rôle important dans la production du jeu, puisque bon, Portal, quand même, bon, je spoil un peu la fin, mais du podcast, mais bon, on s'en souvient aussi beaucoup pour son histoire, pas seulement pour ses mécaniques, même s'il y a une cohérence entre les deux qui est très intéressante. Et puis, bah, ça a justement vraiment dépassé les attentes de Valve avec cette Orange Box, puisque bah, quand elle est sortie, finalement, c'est Portal qui a tiré toute la couverture vers lui, et c'est vraiment ce jeu-là qui a marqué les gens à l'époque de la sortie. Quoi.
Ouais, du coup, le jeu a été vendu assez rapidement en standalone pour que les gens puissent l'acheter directement. Il est arrivé sur console également. Et ce qui était intéressant, c'est de voir qu'à l'époque, donc on avait dit, hein, c'était en 2007, c'était un jeu qui durait que 2 heures. Donc c'était vraiment dans l'idée des développeurs une espèce de petite sucrerie, un petit truc qu'on te filait, parce qu'on était encore à l'époque où il n'y avait pas beaucoup de jeux qui sortaient chaque année, donc la durée de vie était un élément objectif, pour faire plaisir
à
Hugo, de notation et d'évaluation des jeux. Et d'ailleurs, bah, on le sait, hein, c'est ce qui a fait qu'il y a eu un fameux test sur un certain site français qui lui a mis une très mauvaise note parce que le jeu était très court et que du coup, bah, c'était pas bien, tu vois.
Ah, objectivement, c'est pas bien. Un
bah
jeu
oui.
qui dure que 2 heures, ce n'est pas bien, Benoît.
Tu vois, Team Fortress 2, c'est multijoueur, il est infiniment meilleur.
Ah oui,
10 sur 10.
Ah bah
tout
voilà.
Simplement. Inside, ça dure 2 heures.
Alors 10 sur 10, non, parce que c'est 9
c'est
sur
pas
10,
possible
on
parce
peut
que...
pas, on n'a pas le droit, voilà. Les petits souvenirs.
Non, mais c'est vrai qu'effectivement, bah, à l'époque de sa sortie, même si, bon, il y a eu cette note-là, mais il a quand même été très bien reçu, malgré cette petite critique sur la durée de vie qui, aujourd'hui, c'est vrai que ça aurait beaucoup moins de sens de faire cette critique.
Non, mais ça montre aussi, tu vois, l'évolution, parce qu'en 12 ans, le jeu indépendant, aujourd'hui, quand on nous vend des expériences ou des jeux très courts, je veux dire, on a parlé beaucoup de Walking Simulator dans l'émission, bah, des jeux de 2 heures ou 3 heures, ça n'a plus rien de déconnant, quoi.
Mais c'est pas ce qui les a empêchés d'embrayer sur la suite, parce que bon, le jeu a été un succès, et du coup, Portal 2, par contre, lui, c'est pas du tout le même projet. Il a été pensé pour être vraiment un stand-alone, un jeu vraiment qui se tenait tout seul, et donc il y a beaucoup plus d'ambition qui a été mise. C'est pas, l'équipe s'est pas démultipliée non plus, ils sont passés de 10 à 40, mais bon, il y a quand même eu un petit step-up, et là, cette fois-ci, un jeu qui dure beaucoup plus longtemps. Il y avait à la fois un mode solo, un mode co-op aussi, et il n'y avait pas d'autre. Il n'y a pas d'autres trucs, il n'y a pas de multijoueur.
Il y a eu, je pense qu'ils l'ont mis en place un petit peu après, il y avait quand même des maps faites par la communauté.
Ah oui, d'accord,
que tu pouvais télécharger.
Bon, ça, c'est un peu la spécialité. Oui,
oui. Alors, il faut savoir que Valve, c'est quand même les spécialistes du cheval de Troie, parce qu'ils nous avaient forcé à installer Steam avec Half-Life 2, et en fait, Portal a été le cheval de Troie pour mettre en avant le Steam Workshop, hein, qui est leur outil qui permet aux utilisateurs de créer du contenu et de le distribuer facilement via Steam. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui, tu vois, tout ce qui est modding s'est rendu beaucoup plus simple. Là-dessus, on peut leur tirer le chapeau. Parce que c'est vrai que c'était ultra efficace, quoi. T'arrivais, tu voyais une map qui avait l'air cool, tu cliquais, hop, elle s'ajoutait, t'avais rien à faire. Alors que bon, les gens qui ont connu l'époque du modding, ne serait-ce que tu vois, on parlait de Counter-Strike ou Day of Defeat ou quoi, installer des mods avant, c'était quand même tout de suite une autre paire de manches, quoi.
Du coup, jeu qui est beaucoup plus ambitieux, qui encore une fois va aller taper un peu chez les étudiants, puisque il y a la deuxième idée un peu du jeu avec cette histoire de liquide qui vient elle d'un jeu étudiant. Tu avais noté le nom, Max?
Oui, c'était comment? Ça s'appelle Tag the Power of Paint.
Voilà, tout simplement. Et donc à l'intérieur, il y avait ces fameux liquides.
C'est ça, c'est un jeu, bah encore un peu un jeu. Alors je sais plus, c'est des étudiants aussi, mais en tout cas, c'est une espèce de prototype ou de petit jeu hein, assez simpliste. Et là, la mécanique centrale, c'est on a un spray en fait où on peut mettre de la peinture. Je pense que les couleurs sont les mêmes aussi, donc bleu ou orange. Et bleu, ça nous fait rebondir dessus, et orange, ça nous fait courir plus vite. Et c'est littéralement le même concept et des petits puzzles basés à base de ça et du mélange des deux, quoi.
Ouais,
et...
dans Portal 2, ils ont juste rajouté le twist de la peinture blanche qui permet de créer des surfaces à Portal qui intervient sur la fin. Mais sinon, ouais, ils ont repris tel quel la mécanique du jeu étudiant, quoi.
À la base, on avait discuté un petit peu pendant la préparation, ils avaient il y a supposément une espèce d'idée de gameplay un peu magique qu'ils ont eu pour Portal 2 et finalement qu'ils ont dégagé, et parce que ça faisait pas assez Portal, c'est ça ?
En fait, ce qui s'est passé, alors ça, on tire tout ça, ces infos-là, d'une conférence qui est disponible hein, sur YouTube, sur la chaîne de la GDC, qui s'intitule Portal 2, l'histoire d'une suite d'un jeu qui n'en avait pas besoin. Et en fait, les deux auteurs dont on a parlé tout à l'heure expliquaient qu'en gros, il y a eu une première phase dans Portal 2 où le jeu, il n'y avait pas les portails, il n'y avait pas Shell non plus, qui est l'héroïne du jeu qu'on incarne, donc c'était techniquement presque un autre jeu, mais ça s'appelait quand même Portal 2.
Pas GLaDOS non plus.
Et pas GLaDOS non plus. Mais ils avaient découvert une autre mécanique dont j'ai oublié le nom. Tout de suite, ils lui avaient donné un nom, ils en parlent, mais ils expliquent en fait dans la vidéo que comme c'est une mécanique dont ils sont plutôt fiers, par un souci de protection, tu vois, de l'idée en elle-même.
Propriété intellectuelle.
Ouais, voilà, tout simplement, ils ne l'ont pas expliqué parce qu'un jour ou l'autre, ils pourraient peut-être s'en servir, peut-être dans le jeu Half-Life VR. Tu vois, vous imaginez maintenant, ça serait assez rigolo de voir ça si cette mécanique-là est sortie. Dans tous les cas, le jeu était très différent, et en fait rapidement ils se sont rendus compte en faisant tester les gens ou en faisant un peu des espèces de focus group que ben, jouer à un jeu qui s'appelait Portal 2 où il n'y avait ni GLaDOS ni l'héroïne ni les portails, est-ce que c'était bien sérieux cette histoire là
Oui, c'est ça, les retours, je crois que c'est même bon, c'est toujours dans la mythologie hein, mais Gabe Newell toujours aussi un peu en mode il est bien hein, votre jeu concrètement, mais vous faites Portal 2 quoi.
Oui. Oui, oui, c'est pourquoi l'appeler Portal 2 s'il n'y a pas de portail ni quoi que ce soit. Donc, ils sont revenus finalement à l'univers classique et ils ont, du coup, ils se sont creusé le ciboulot pour essayer de trouver une justification à pourquoi Shell, se retrouve.
Jessie Shell, pas mal, hein.
Ouais,
hein,
ouais.
Ça fait des liens. Hein.
Mais non, mais c'est parce que, oui, bon, c'est un auteur de bouquin, mais voilà. Et pourquoi elle est encore une fois dans le truc, pourquoi GLaDOS est revenu, et bon, évidemment, on va en reparler dans l'histoire, mais voilà, finalement, ça fonctionne plutôt bien, ce Portal 2. Le jeu s'est extrêmement bien vendu.
Ah, oh, bah, les deux, de toute façon. Voilà, se sont très bien vendus, et c'est vrai que je pense que comme le deuxième épisode avait cette fois-ci n'avait plus ce semi-handicap d'être un petit jeu comme ça, qui avait encore cette étiquette un peu expérimentale et d'être un vrai truc assez blockbuster, c'était vraiment le gros jeu de Valve. D'ailleurs, on peut le dire, hein, c'est le dernier jeu solo actuellement, c'est le dernier jeu solo.
Oui, c'est ça,
Valve.
Pendant encore quelques heures.
Voilà, actuellement, nous sommes le 19 novembre.
Vous, au moment de l'enregistrer, à 10h du mat, normalement, vous devriez avoir la présentation de Half-Life Alyx.
Oui, c'est, normalement, ce sera passé au moment où vous l'aurez écouté. Donc voilà, il y aura eu une nouveauté, mais aujourd'hui, au moment où nous enregistrons, c'est le dernier jeu solo. Donc c'était quand même une grosse bébête et il n'avait pas du tout la même, il a pas eu du tout la même com que le premier. Et forcément, bah, les ventes ont été aussi...
Sachant que pour la petite anecdote, retour en arrière, Portal 2 avait cette spécificité unique, hein, parce que c'est le seul jeu de l'histoire à avoir fait ça, que quand tu l'achetais sur PlayStation 4, tu avais le code Steam qui était offert à l'intérieur. Donc en fait, tu avais le jeu...
PlayStation 3, pardon.
Oui, c'est l'habitude de dire Play 4. Mais donc ouais, c'était sur Play 3 et tu avais un code Steam et le jeu était cross-platform. Ouais. Ce qui est assez rigolo, parce que quand on voit, tu vois, sur Fortnite, Sony a fait des pieds et des mains pour empêcher ça. Alors que là, à l'époque, Steam, ils avaient dit, ben, du coup, tu pouvais faire la partie coop sur PC et l'autre personne, elle était sur Play 3 et ça fonctionnait très bien.
Ouais. Moi, je me souviens, j'ai joué en coop avec mon frère qui, lui, était sur Play 3 et moi sur PC et on jouait tous les deux en ligne.
Et évidemment, il y avait tout un tas de mécaniques pour discuter, pour éviter d'utiliser les microphones, parce que souvenez-vous, la PlayStation 3, hein, le PSN et le multi, c'était de la grosse daube en langage technique. Donc, voilà.
Eh bien, on va pouvoir commencer à rentrer dans le vif du sujet avec la fameuse histoire de Portal, hein, puis vous commencez à connaître la structure du podcast. Alors, c'est quoi Portal ? Qu'est-ce que c'est ces histoires de trous bleus, oranges ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu, Maxime ? Shell, oui, c'est qui ? C'est qui GLaDOS ?
C'est encore moi qui fais ça.
non, mais est-ce qu'on fait la backstory d'abord ? Aperture, Black Mesa, tous ces trucs-là.
Moi, je trouve ça intéressant parce que du coup, j'ai passé ma matinée à lire, à lire le wiki de Half-Life, donc ça me dérange pas. En fait, j'ai découvert à quel point les deux jeux étaient liés, puisque Portal se déroule dans l'univers d'Half-Life. Et donc, la petite backstory, c'est qu'il y a deux grandes sociétés, on va dire, de recherche scientifique qui sont Black Mesa, qu'on connaît parce qu'on les croise dans Half-Life, et Aperture Science, qu'on croise dans Portal. Et les deux, dans les années 90, étaient plus ou moins mandatés et plus ou moins financés secrètement par le gouvernement américain pour faire une étude sur la téléportation. Et donc, Half-Life, ça, il y a eu le fameux Black Mesa Incident où, qu'on le connaît, hein, c'est le début de Half-Life, donc c'est pas vraiment du gros spoil. Les aliens débarquent sur la planète Terre.
Oulala.
Et du côté de chez Aperture Science, ils ont réussi à développer la technologie du Portal et ils en ont fait un pistolet, du coup, ils ont fait le Portal Gun. Et en fait, comme ils avaient, en gros, alors on revient encore dans la backstory, dans les années 40 quand la société Aperture Science est passée de la fabrication de rideaux de douche, hein, voilà, c'est officiel, hein, c'est écrit, à la recherche scientifique, ils ont acheté, en fait, le patron Kev Johnson, dans les années 40, il a acheté une vieille mine qui était complètement désaffectée, donc c'est pour ça que les labos d'Aperture sont sous le sol, et qu'ils ont pu rester sous le sol malgré l'invasion des aliens, puisque du coup, comme Portal 1 se passe pendant Half-Life, ou à peu d'années près, techniquement, la Terre, à ce moment-là, elle est complètement dominée par les extraterrestres, mais eux, ils étaient sous Terre, donc ils étaient tranquilles, d'ailleurs. GLaDOS fait référence régulièrement en disant que à Shell de ne pas sortir parce que c'est pire à l'extérieur que si elle restait avec elle. Voilà, vous voyez,
on apprend des choses.
Donc ça, c'est la backstory. Et
tu vois, ce n'est pas si inintéressant que ça. J'avais dit, j'en ai rien à foutre. C'était pas si inintéressant.
Non, mais je me suis plongé dans le truc. Alors évidemment, tu sais, comme c'est un wiki, c'est rigolo parce que à chaque fois, tu cliques sur un truc. Tu commences à rentrer dans le tunnel du lapin, mais tu découvres tout un tas de petits détails et de petits liens qui font que, bah oui, en fait, c'est assez malin comment c'est intégré à l'univers d'Half-Life.
Et pour rappel, donc Portal est sorti en même temps que l'épisode 2 de Half-Life 2, et en fait ces deux jeux-là font des références l'un à l'autre. Dans Half-Life 2, il y a alors je sais pas si des Portals on le sait, mais il y a une référence au Borealis, qui est un navire, et on sent que ça va devenir un enjeu en fait scénaristique pour le prochain Half-Life, hein,
le fameux épisode 3 qui est jamais sorti.
Quand on joue à Portal, on découvre que bah, le jeu se situe dans l'univers d'Half-Life, et à la sortie de Portal 2, on pouvait s'attendre du coup à ce qu'il y ait quelque chose Half-Life, et au final il y a juste l'équivalent d'un easter egg en fait, où il y a le Borealis, il y a le fameux navire.
Alors il n'y a pas le navire, tu vois simplement la rade où il était avant de sortir, mais c'est quand même assez caché, et t'as un petit succès, en gros, si tu découvres l'endroit caché, ils te disent, t'as trouvé un truc, machin, mais effectivement, dans Half-Life 2, épisode 2, on t'en parle de ce fameux Borealis qui est le navire scientifique de Aperture Science. C'est la première fois qu'on entend parler de cette boîte-là, avant justement Portal.
Ok, donc je retire ce que j'ai dit, c'était effectivement chiant. mais donc, l'histoire de Portal, bah, on incarne donc Shell, qui est une jeune femme qui fait partie un petit peu des cobayes, hein, d'Aperture, pour pouvoir expérimenter justement avec ce fameux Portal Gun. Vraisemblablement, au début de l'histoire, c'est la dernière cobaye qui est en stock, hein, dans le laboratoire. Et elle va donc être soumise à une série de tests qui vont être effectués par GLaDOS, qui est l'intelligence artificielle qui gère un petit peu le business.
Qui a même pris le contrôle, hein, parce que du coup, elle est arrivée, ils ont fait plusieurs essais, et elle a, je sais plus combien de fois, elle est, assez rapidement, elle est devenue consciente, et c'est devenu, comment ça s'appelait, mince, j'ai perdu le nom. Oui, non, mais je cherchais Skynet, voilà, c'est devenu Skynet, elle a décidé de tuer les humains en jetant les fameuses neurotoxines, et elle a gardé Shell en vie quand même.
Elle a gardé des cobayes pour continuer à faire ses tests, parce que ouais. C'est son kiff de faire des tests à base de portails. Et donc on va nous initier à cette fameuse mécanique des portails, on va récupérer le portail Gun, jusqu'au moment où GLaDOS commence à en avoir ras-le-bol de nous, et décide de tout simplement nous tuer en nous faisant cramer dans un incinérateur, mais... Au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'apparemment, il y avait quand même des petits problèmes. Il y a quelqu'un qui nous raconte que...
Le gâteau est un
mensonge.
Voilà, la fameuse récompense que GLaDOS nous promet à chaque fois, que le gâteau, c'est peut-être un mensonge. Ça y est, c'est dit, on peut le passer maintenant. Et on va pouvoir s'enfuir, tout simplement. On va pouvoir passer un petit peu dans les coulisses de ce laboratoire, jusqu'au moment où on va aller confronter GLaDOS, et on va pouvoir la détruire, tout simplement. Ou pas, puisqu'on la retrouvera quand même dans l'épisode 2, puisque malgré son évasion supposée d'Aperture, Shell se fait récupérer, elle se fait rapatrier encore à l'intérieur d'Aperture. En tout cas, ça, c'est le prétexte qu'ils ont utilisé pour nous sortir un deuxième épisode.
C'est expliqué. Hein.
Pour l'anecdote, ça, il n'y avait pas à la base, en fait. Si je dis pas de bêtises, à la fin de Portal 1, avant, c'était juste on sort, en fait, on se réveille un peu. Non, je crois qu'il n'y avait même pas. C'est juste on sort, enfin, Shell, elle sort, et puis le jeu se termine. Et ils ont rajouté une petite cinématique de fin. Avant la sortie de Portal 2, en fait,
où il se passait un petit truc en plus.
Où t'as une cinématique de fin.
T'es par terre, tu regardes un peu le feu autour de toi, et il y a un robot qui te tire.
Tu te réveilles, tout a explosé en fait, et t'es un peu au milieu des décombres et tout, et t'entends une voix de robot du style, je sais pas, on va rapatrier la cible ou je sais pas trop quoi, et tu te fais tirer et tu te fais ramener encore dans.
Ça faisait partie du teasing, on revient deux secondes sur la genèse du jeu, mais effectivement, à peu de temps avant la sortie de Portal 2, ils avaient rajouté en fait des petits messages radio et des petits indices. Un peu caché, et cette fameuse petite seconde dans la cinématique. Ils ont également sorti un comics que vous pouvez retrouver. J'essaierai de mettre le lien quelque part pour si vous avez envie de le lire, parce qu'il est dispo en ligne, qui explique le lien entre la fin de Portal 1 et le début de Portal 2, où on voit justement le personnage de Doug Ratman, qui est le type qui écrivait sur les murs que le cake is a lie et machin. Et puis dans la chanson, la fameuse chanson quand même, que vous avez entendu tout à l'heure, très probablement, j'imagine que c'est ça la musique que tu leur as mis. Elle le dit qu'elle est encore en vie, puisque c'est le nom de la chanson. Donc GLaDOS, elle a survécu quoi qu'il arrive.
Et du coup, en fait, le deuxième épisode, lui commence où on sort d'une espèce, encore une fois, d'une espèce de sommeil cryogénique, comme Han Solo, tout simplement. Et cette fois, c'est Whitley qui nous...
Putain, ces petites références à la culture geek, on va monter dans le référencement, là.
Vous l'avez, les geeks, vous avez compris.
Vous avez vu Han Solo, les Jedi, tout ça, la force. Et du coup, on se fait réveiller dans une espèce de chambre, et c'est un peu la hesse, tout s'écroule, et Whitley va nous... comment ça se passe finalement? On commence des tests directement?
Il y a Whitley en fait qui nous réveille et qui commence à nous parler avec sa voix. Moi je vous conseille, enfin je pense que vous avez fait le jeu si vous nous écoutez, mais le doublage français est vraiment excellent. Où tu sais, il nous demande de faire des tests et il nous dit genre essayez de parler, et toi tu jettes un truc ou tu sautes. Sauter. Donc t'as tout le petit tuto rigolo. Et Whitley essaye de te sauver parce qu'il te dit bon, c'est la merde. En gros, tout est en train de s'effondrer autour de nous, et comme on est le dernier être humain en vie, elle va, Whitley, l'autre IA, va essayer de nous sauver.
Et je pense qu'il a aussi besoin de toi pour s'échapper, parce que c'est une espèce de boule sur rail. À la base, il s'est même pas encore éjecté, et après, il découvre qu'il peut s'éjecter, parce que ses maîtres lui avaient dit que sinon il allait mourir, et qu'il fallait surtout pas le faire. Il le fait, il fait un peu le saut de la foi, et tu peux le trimballer un peu dans la station.
Oui, il y a tout un passage où on se balade avec lui dans les bras.
C'est ça, je crois qu'il veut juste s'échapper à la base, ou en tout cas, toi et lui, vous échappiez, et puis là, tout tourne mal.
Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme à la fin, on tue GLaDOS et que c'était GLaDOS qui contrôlait le centre est laissé à l'abandon pendant probablement des décennies, on n'a aucune idée du temps qui s'est écoulé entre les deux épisodes, et Whitley lui il est conscient également, c'est une des autres IA qui existe dans le centre, et effectivement il cherchait une solution pour se barrer parce que lui il est incapable de prendre le contrôle à la place de GLaDOS, et comme il a découvert qu'il y avait un humain qui était en vie, il en a profité pour lui demander de l'aide quoi.
Et du coup on réveille GLaDOS.
Oui, on fait quelques séries de tests, on tombe dans un truc et bim, ça y est, on retombe sur GLaDOS qui se réveille, et là c'est reparti.
Qui est rancunière, c'est évidemment, les intelligences artificielles sont rancunières, c'est comme ça.
Je suis content de vous voir, espèce de monstre qui te balance ça dans la tronche. Et donc c'est reparti pour une série de tests jusqu'à qu'on confronte encore une fois GLaDOS. Cette fois-ci, on gagne encore, on place Whitley à sa place. on a l'impression que le jeu est fini, mais non, pas du tout.
Twist.
En fait, Whitley, le pouvoir lui monte à la tête, il fait non, 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 c'est moi qui ai fait tout seul, en fait, toi tu sers à rien, et il te bazarde la tronche, et tu tombes encore plus dans les profondeurs d'aperture, et là on va encore passer toute une série de tests, on va notamment rencontrer le fameux Cave Johnson, on va comprendre un peu toute cette backstory.
Enfin, on le rencontre pas, il y a tous les messages enregistrés. Non, voilà, non, mais c'est juste pour eux, voilà.
Effectivement, on va l'entendre parler, nous gueuler dessus littéralement pendant qu'on fait les petits exercices avec les fameux liquides. Et puis, on va pouvoir encore une fois remonter. Cette fois-ci, on affronte Whitley un peu à la manière du combat contre GLaDOS dans le premier. Et ça y est, GLaDOS nous remercie.
C'est vachement mieux fait. Niveau de la mise en scène, parce qu'on a découvert que le liquide qui permet de créer les portails en fait est extrait de roches lunaires. Mmh. Et donc, tu as toute une séquence où tu es vraiment en train de voir une dernière seconde le trou dans l'espace là. Mmh. Et tu vois la lune au loin. Et toi, en fait, tu fais ton portail sur la lune et il y a Whitley qui est aspiré à cause de du vide, puisque forcément de l'autre côté c'est le vide. Cette fin là moi je l'avais trouvé quand même
très
classe,
c'est sympa,
hein.
C'est
ouais,
sympa.
Ouais, vraiment ça m'avait
Et du coup effectivement parce que alors je l'ai pas précisé mais GLaDOS elle est pas complètement détruite puisque son intelligence elle se fait greffer dans une pomme de terre que tu vas trimballer avec toi et qui va forcément être un peu plus reconnaissante et elle se résout à te laisser partir parce qu'elle en a ras-le-bol de te gérer et du coup elle te dégage.
Pour la première fois elle a une attitude assez pragmatique en fait où elle dit bon quand on peut pas se débarrasser d'un problème on abandonne ou on laisse s'enfuir, allez dégage tu vois. Et tu finis, tu montes dans un ascenseur. Il y a une petite chorale de robots aussi.
Oui, il y a les tourelles qui se mettent à faire la chanson. Tu sens que là, ils savaient pas quoi faire. Ils se sont dit, on va faire comme d'habitude chez Valve, on va prendre de la drogue et ensuite on fait le boulot.
Chanson que tu pouvais entendre, qui est un petit easter egg aussi, en fait, qui est caché vraiment dans un des puzzles de Portal 2. Tu peux voir trois petites tourelles qui font la même musique avec l'espèce de chef d'orchestre qui est une grosse tourelle. Bon, bref, ils se sont tapés un gros délire. Et tu montes tout en haut et t'es au milieu d'un champ de blé et on te rend ton petit companion cube.
Ouais. Le
fameux
cube
qui a bien morflé aussi.
Oui, lui aussi, il a morflé, mais ils ont vraiment pris le temps, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'avec l'histoire, même si finalement en soi, bon là on prend du temps à la raconter, mais ils ont créé tout cet univers où les tourelles, les robots, les cubes, etc., ils ont tous une espèce de backstory, comme si c'était des personnages ultra importants. Les tourelles notamment, il y a toute une mythologie autour des tourelles, enfin tu vois, c'est devenu...
Oui, et puis même ils ont réussi à donner de la personnalité à tous ces petits objets-là, parce que même les tourelles, quand tu les chopes, tu sais, avant de... Tu sais, elles te visent, et quand tu les chopent et qu'elles peuvent plus rien faire, elles se plaignent un peu genre « Oh non, mais qu'est-ce que vous allez faire de moi ?» ou un truc comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a toujours ce petit humour ambiant, on va forcément revenir dessus après dans l'émission, mais ouais, ils sont arrivés à greffer, à donner de la personnalité à plein de choses comme ça.
Et juste pour en revenir sur l'aspect personnalité, justement GLaDOS aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est une espèce d'amas aussi, en fait, de personnalité, puisque pour l'histoire, c'est une espèce de super IA, hein, et pour éviter qu'elle soit trop dangereuse, ils essayent de contrebalancer ça en mettant justement des... Je sais plus comment ils les appellent, des
corps là, des
ouais
des
c'est
cœurs,
ça des noyaux des enfin noyaux, des voilà, espèces de noyaux donc
Whitley en est un d'ailleurs.
Voilà, Whitley en est un et lui c'est le corps débile en fait. Il est bête, il a été designé et créé pour être bête et pour que GLaDOS soit pas trop
pas méchant. Je suis dessiné comme ça.
Ouais, c'est ça, elle lui dit, je vois GLaDOS, elle lui dit oui en fait t'es pas n'importe quel idiot, t'es le plus grand idiot qu'on ait jamais fabriqué tu vois, et c'est ça qui le met en colère d'ailleurs. Et elle en a d'autres aussi, je sais plus exactement ce qu'elle a comme personnalité, mais
Elle en a plusieurs, et elle a donc la fameuse Caroline qui était l'assistante de Cave Johnson et qui a servi un petit peu de base. Et donc pour revenir sur la backstory, le fait qu'elle ait, elle soit devenue tarée au niveau de la science, c'est qu'ils lui ont ajouté un module de moralité qui lui permettait de ne pas tuer les humains, ou en tout cas pas trop vite, parce que d'habitude elle voulait les tuer au bout de quelques secondes, là il lui fallait quelques heures avant qu'elle commence à vouloir tuer les gens. Et il y a tout un délire dans la petite BD qui fait les deux, où elle s'amuse à faire l'expérience de... c'est du chat Schrödinger où en gros elle teste, elle dit aux gens ramenez vos chats, tu sais, elle invente un bring your cat day, et donc elle récupère plein de chats pour faire l'expérience, et elle explique qu'en gros ça marche pas en fait, ils sont tous morts, donc cette expérience ne marche pas.
Et c'est aussi un prétexte qu'elle dit, elle va avoir besoin de neurotoxines pour
faire et le d'où les fameuses neurotoxines de Portal 2. Non mais c'est rigolo parce qu'ils arrivent quand même à retomber sur leurs pattes.
Ouais, et puis surtout ils ont toujours cette façon de s'approprier tous ces délires de culture d'entreprise, genre bring your cat day, enfin c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les discours. Il y a plein de blagues en fait qui se reposent sur ce genre de choses, et c'est vrai que ça fonctionne très très bien.
Et on en reparlera après, parce que là pour l'instant on voulait s'intéresser au côté un petit peu gameplay du jeu, parce que Portal 1 et Portal 2 ils ont cette rare capacité d'être des jeux puzzle, qui est pas un style de jeu qui est finalement très populaire, hein, parce que les jeux de puzzle c'est plutôt des jeux de niche, tu vois, on va penser à Myst, on va penser à des jeux comme ça, mais avec Portal on a peut-être les premiers jeux puzzle grand public, c'est ce qui est écrit, hein. Bullet Point, c'est marqué grand public
vraiment en fait, quand tu quand tu regardes l'époque où ils sont sortis, c'est-à-dire 2007-2011, clairement le puzzle c'était vraiment passé. L'époque de domination des jeux de puzzle, même des point and click ou des trucs comme ça, qui était vraiment un peu le haut du iceberg du jeu vidéo, c'est vrai que c'est vraiment passé. On est beaucoup plus dans les jeux d'action, dans les FPS. Enfin, il y a eu Half-Life 2 qui est passé par là, donc il y a des jeux maintenant qui ont de l'histoire, beaucoup d'action, de l'aventure, du spectacle. Ça commence déjà à cette époque-là. Et c'est vrai que Portal, alors Portal 1 peut-être un peu moins, mais il y a déjà cette envie effectivement de faire quelque chose qui est beaucoup plus percutant, mais tout en gardant un côté puzzle et réflexion qui est vraiment au cœur du jeu, quoi.
Oui, parce que déjà en termes de budget, enfin ça reste le jeu à première personne avec un budget assez élevé, effectivement, qui n'est qu'un entre guillemets jeu de puzzle, parce que je pense qu'il y avait quand même des jeux de puzzle, tu vois, en 2007, mais ça devait être des choses, Braid, tu vois, typiquement. Après ça c'est du jeu indé.
Braid c'est 2008, je crois.
Ah oui, c'est 2008, c'est le début, c'est vraiment des premiers, oui, ça.
Mais on est dans, du coup dans du puzzle où je pense à Tetris, tu vois, qui est plus vieux évidemment, mais là on est vraiment dans du puzzle première personne avec du budget. Effectivement, je pense que Portal c'est vraiment...
Je te juge parce que je vois pas en quoi Tetris c'est un jeu de puzzle, on va plutôt citer Myst, voilà.
Oui, non mais des jeux de puzzle en 3D, il y en avait pas.
Non, ça n'existait pas en fait. Ces jeux-là, effectivement, on n'avait pas encore.
Il y avait
Portal, il a lancé le truc
dans des jeux d'aventure.
Oui, il y avait voilà, on poussait des caisses dans Tomb Raider, on récupérait des trucs.
Half-Life 2 avait des petits puzzles basés sur la physique aussi.
Bah oui, parce qu'il y avait tout le Gravity Gun qui a vraiment fait l'un des grands points forts du jeu, c'était ce fameux gun-là. Et Portal, en fait, reprenait un peu le même délire. Mais moi, ce que j'ai vraiment trouvé cool, en fait, avec cette idée de Portal, c'est qu'il nous, il nous explique une mécanique qui est pas du tout logique, tu vois. Mais ils ont réussi, en quelques niveaux, à nous expliquer comment ça fonctionnait, alors que ça n'a évidemment aucune, ça n'a aucune réalité scientifique. Ça serait pas possible de pouvoir retrouver les portails. Et pourtant, on comprend très rapidement comment ça fonctionne.
Bah, d'ailleurs, un de leurs premiers soucis, un de leurs premiers challenges, c'était, de faire comprendre, en fait, vraiment ce qu'était un portail. Nous, ça nous paraît évident maintenant, on a le bleu, le orange, on rentre dans le bleu, on sort dans l'orange. Mais quand on est confronté à ça pour la première fois, le cerveau humain peut s'imaginer les choses. Il disait par exemple, il y avait des playtesters, ils pensaient que ça pouvait t'amener dans une autre dimension, dans un autre monde, tu vois. Et donc dès le début, c'est en partie pour ça qu'on est... Donc déjà, on n'a pas le portail gun, déjà. On est enfermé dans une espèce de petite cellule en verre. Et au début, ça commence, on a un portail devant nous et un portail qui est juste à côté, et on se voit, en fait. Quand on regarde dans le portail, on peut se voir de profil. Ça nous fait comprendre qu'on est dans la même pièce, on se voit aussi, on comprend qu'on est une personne dans ce monde-là. Et ça, ils le disent, c'est dans les commentaires des développeurs du premier portail. T'as aussi la petite radio qui joue la musique, et quand tu prends un portail à l'autre, tu comprends que t'es toujours dans le même univers, parce que t'as toujours cette musique qui change pas.
Et ça, c'était intéressant parce que du coup, ils ont le seul trailer qu'on a eu de Portal avant qu'il sorte, donc c'était où on entendait GLaDOS, et c'était le fameux début de cette petite direction artistique où on voyait des petits bonhommes noirs là, entourés de blanc, qui expliquent en gros comment fonctionne le portail. Et t'as GLaDOS qui nous explique ça comme une vidéo. Les fameuses infographies, ce que vous me demandiez tout à l'heure là en off, truc de PowerPoint et toutes ces conneries, là, machin d'entreprise. Elle explique ça, et à la fin, il y avait la fameuse phrase du Now you're thinking with Portal, c'est-à-dire que en gros, maintenant, ça y est, vous comprenez comment fonctionnent les portails. Et je trouve que cette phrase-là, elle est super intéressante parce que ça explique qu'en tant que game designer, ils doivent nous expliquer une mécanique qui nous sort complètement de notre réalité et de... Tu vois, c'est un truc non euclidien parce que c'est pas possible, quoi. Tu vois, on peut pas voir, ouais, c'est pas possible. J'espère. Si c'est possible, ça va être bizarre, mais.
En fait, tu vois, il y a une histoire. Si tu mets, par exemple, parce que les portails peuvent être mis sur une surface qui peut être mouvante, on va dire une petite plateforme en pierre qui bouge, et c'est-à-dire, en théorie, tu peux faire entrer un portail dans un autre, tu vois. Donc là, ça commence à être compliqué.
Alors d'ailleurs, fun fact, dans le Narbacular Drop, tu pouvais placer un portail à travers un portail. D'accord, ça a été enlevé justement dans la version de Portal.
J'ai vu des gens ils avaient fait en mode une map justement où tu faisais ça en fait, un portail on va dire orange et un petit portail bleu qui va rentrer dans le portail orange. Je crois que c'est juste ça se bloque en fait, mais du coup il sort dans lui-même et il se bloque.
La façon dont ils ont remodelé la mécanique après Narbacular Drop faisait que c'était pas cohérent, puisque quand on met une surface et qu'il n'y a qu'un seul portail qui est activé, en fait la surface n'est pas encore transparente, on voit cette espèce de flou, donc on sait qu'on peut pas recliquer dedans. Mais c'est ça, vraiment une grande partie du travail sur Portal, ça a été comment nous faire comprendre comment fonctionne ce truc-là qui était nouveau. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait, les portails, c'est facile. Mais eux, à l'époque, ils se disaient, est-ce que les gens vont comprendre ? Et c'est vrai que, c'est comme tu l'as dit, ça faisait partie de leurs grosses inquiétudes. Et du coup, l'intro de Portal, elle est très connue à la fois pour son aspect narratif, parce que c'est marrant, ça te met tout de suite dans l'ambiance, ça te permet de comprendre tout de suite l'exposition, etc. Et en plus, elle t'explique très très bien la mécanique, à quoi tu vas être confronté dans le jeu.
Et puis, c'est surtout vraiment pour revenir à cette histoire de grand public. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux de puzzle. En général, ils sont vraiment là pour nous challenger, tout de suite montrer à quel point le designer, il est malin, il a pensé à plein de trucs où c'est très très compliqué. Vous prenez un jeu comme The Witness, même si le début peut être assez doux, c'est quand même un jeu où tu sens que le mec, il s'éclate un peu à montrer qu'il est malin. Là, c'est vrai que Portail, le travail dessus a vraiment été de lisser à fond pour vraiment faire un jeu extrêmement accessible, en fait. Une fois que cette mécanique-là, elle est introduite. Ils ont par exemple sur les premières versions, il y avait beaucoup d'objets en fait dans le décor, des petites, je sais pas, des tasses, enfin plein de bordel. Et en fait, ils ont tout dégagé parce qu'ils se rendaient compte pendant les playtests que les joueurs cherchaient à interagir avec et perdaient du temps parce qu'ils pensaient que ça pourrait avoir un rapport avec le puzzle, alors que les puzzles avaient tout le temps simplement un rapport avec les portails. Et c'est pour ça que du coup, ils ont fait ce milieu tout aseptisé qui va être évidemment très très bien justifié par la narration et l'univers. Malgré tout, en fait, c'est aussi très utile en termes de game design parce que pour la navigation et pour l'aide à la compréhension des puzzles, quand t'as rien d'autre qui vient te perturber dans ta compréhension, tu peux te focaliser sur les éléments les plus importants, les boutons, les portails, les cubes, les petits générateurs, les petits liens, vous savez, les petits points jaunes là qui nous montrent en fait comment
comment
ouvrir une porte, hop, et c'est simple, et du coup on peut vraiment se concentrer sur les éléments qui sont pertinents pour la résolution du puzzle, quoi.
Tu vois, ça nous renvoie à ce qu'on pouvait dire dans un épisode sur Journey où en gros, en fonction du type de jeu et des interactions, en fait, la liberté que tu vas donner aux joueurs va leur donner une idée de possibilité. Et dans un jeu de puzzle, comme on est tout de suite dans une espèce de, tu sais, d'état d'esprit de vouloir résoudre quelque chose, si tu laisses un truc, ça peut être forcément vu comme une énigme. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant, et c'est un bon conseil pour les gens qui développent les jeux, de les objets que vous laissez traîner dans votre décor, faites attention parce que les gens, ils peuvent leur accorder une importance à laquelle vous n'aurez pas pensé au départ, quoi.
De toute façon, Portal, si vous allez vous regarder sur la GDC et que vous regardez Puzzle Games, Portal, c'est un peu une masterclass en fait, vraiment sur comment designer du puzzle et surtout comment aussi travailler sur la courbe de difficulté, parce que ça aussi c'est très très important quand on fait du puzzle. Et Portal, vraiment, si vous relancez dedans, vous verrez en fait chaque salle vous introduit une nouvelle mécanique que vous liez à celle que vous avez apprise juste avant, et ça se fait quand même vraiment au fur et à mesure. Et j'avais regardé là une conf GDC, alors je sais plus du tout qui c'était le mec qui parlait de ça, mais qui disait en fait comment le cerveau humain arrive à apprendre des choses. En fait, pour arriver à intégrer des choses, il faut qu'on fonctionne par combinaison, c'est-à-dire qu'on apprend un élément et ensuite le deuxième élément on l'ajoute à celui-ci, et pour faire des interactions on crée des espèces de chaînes comme ça d'apprentissage. Et c'est exactement ce qui se passe dans Portal, en fait. Tu commences sur je dois appuyer sur un bouton pour ouvrir une porte. Ok. Ensuite, je vais utiliser un portail pour pouvoir faire passer le cube, pour pouvoir appuyer sur le bouton et la porte. Et ensuite, etc., etc., etc. Où c'est que je vais placer le portail? Comment je vais pouvoir gérer la vitesse, les déplacements et compagnie? Et ça se fait vraiment au fur et à mesure de tous les niveaux et de toutes les salles de test, quoi.
Et t'as un truc qui est intéressant aussi avec Portal 2, c'est qu'ils peuvent partir du principe que les gens n'ont pas joué au premier portail, donc ils doivent à la fois apprendre aux gens, en fait, comment les portails fonctionnent, mais en se disant que la moitié le savent déjà. Mmh. Et c'est intéressant de voir, ils ont un peu mieux appris, tu vois, ils ont déjà maîtrisé leur apprentissage. Et par exemple, dans Portal 1, donc comme on le disait au début, on a pas le portail du tout, ils sont créés pour nous, après on peut en créer que un, et ensuite on pourra créer les deux. Et au tout début, en fait, il y a des portails qui apparaissent de façon un peu aléatoire, enfin, toutes les 10 secondes, il y a un portail qui apparaît, et nous, on doit
on
le
voit
prendre.
Le portail gueule qui tourne comme ça, et qui...
Avant ça, en fait, où vraiment, je crois que t'as aucun... Tu n'as aucun
oui, au
gun,
début,
en fait.
On les voit pas encore, ouais.
Et tu vois, en fait, il faut juste comprendre en fait que le portail, il apparaît à tel endroit de la pièce, puis à tel endroit de la pièce, et à un moment tu dois rentrer, prendre un cube, attendre qu'il repasse et ensuite mettre le cube sur un bouton. Et en fait, dans Portal 2, ils se sont dit en fait, ce qu'on peut faire, c'est apprendre toujours ce concept de portail, mais cette fois ils l'ont fait manuellement, c'est-à-dire tu as des boutons où tu appuies sur le bouton pour faire popper un portail devant toi. Et ça, là il y a encore cette fameuse connexion un peu dans le sens où c'est toi qui décides que le portail se met à ce moment-là sur ce mur, tu vois. C'est avant d'avoir le portal gun, tu appuies sur un bouton et tu comprends, tu intègres au mieux en fait cette mécanique.
Ça, c'est super intéressant parce que du coup ce qu'on appelle l'onboarding, c'est le terme populaire en ce moment, donc vraiment le début du jeu de Portal 2 est finalement beaucoup plus court. Ils ont réussi à le lisser, à le synthétiser pour avoir le même résultat que ce qu'ils faisaient dans Portal 1. Alors bon, Portal 1 il dure que 2 heures, on est bien d'accord. Le 2 il est beaucoup plus long, mais là en 15-20 minutes t'as déjà fait le tour et t'es déjà dans le vif du sujet au niveau de l'histoire, puisque le 2 a un rythme en termes de narration qui est mené vraiment tambour battant, pendant tout le temps il y a des grosses séquences narratives où on fait rien du tout, on fait que écouter écouter Whitley dire des conneries ou où s'envoyer des vannes.
On court, il y a des grandes séquences où on court, on saute de plateforme en plateforme, ce qui est effectivement vraiment quelque chose qu'on va faire éventuellement un peu à la fin de Portal 1. Mais c'est vrai que l'intro du 2, moi j'étais vraiment choqué du changement de tonalité. Le 1 qui est beaucoup plus posé, comme ça, beaucoup plus froid, beaucoup plus clinique. Et là, j'avais vraiment l'impression d'être devant un Pixar. En plus, je jouais avec les gosses à côté. Tu sais, il y a les blagues de Whitley et tout. Comme tu dis, c'est pas du tout le même rythme. Et ça se ressent effectivement aussi dans le gameplay, où là c'est beaucoup plus concentré. Ouais.
Et du coup, comme dans Portal 2, le début, c'est simplement on se refait à un moment donné capturé par GLaDOS et donc on doit refaire encore des trucs. On a un peu une espèce de petite revanche où elle nous remet dans le laboratoire. Tu sais, on est le petit rat de laboratoire, elle nous remet au milieu de tout ça et on rejoue avec des mécaniques, mais ils ont réussi à en introduire des nouvelles, puisqu'on va avoir les fameux portails lumineux, là, les chemins lumineux bleus de Portal 2. On va avoir les lasers aussi avec les espèces de petits cubes, tu sais, sphériques, là où on peut faire passer un laser pour activer des espèces de connecteurs électriques, etc. Donc on retrouve en fait finalement la même idée de base de vous faites des tests et puis c'est tout et vous utilisez les portails. Et ils ont réussi à faire ça pour que ça ne soit pas redondant. Donc c'était quand même très compliqué. Je pense que c'est pour ça qu'à un moment donné dans leur processus ils se sont dit on va pas remettre les portails parce qu'on a peut-être été au bout de ce qu'on pouvait faire avec. Et finalement ils se sont rendu compte qu'ils pouvaient encore effectivement exploiter beaucoup de choses avec l'histoire des portails.
Et sinon pour se concentrer un peu juste sur la mécanique des portails, je pense que c'est vraiment ça aussi qui met cette idée un peu de puzzle grand public entre guillemets, puisque par rapport à The Witness qui est ultra austère ou un peu un Talos Principal aussi qui est pas complètement joyeux, là les portails c'est cool en fait, juste à manipuler c'est bien, et puis c'est un concept, tu commences à dire ouais dans le vrai monde ce serait peut-être plus ou moins ça, tu vois, disons qu'il y a pas un effort. Une fois que t'as maîtrisé, tu vois, qu'il y a eu tout cet apprentissage, t'as pas un effort énorme à faire pour comprendre comment ça va s'intégrer dans ce monde, et notamment avec la mécanique, ils appellent ça le fling, le fait que... Alors, moment explication à l'oral, mais cette idée que quand on rentre dans un portail avec beaucoup d'élan, en fait, avec beaucoup de vitesse, du coup, on va ressortir par l'autre portail en gardant cette inertie. Du coup, ce qu'ils nous font faire, c'est que si on est, par exemple, au bord d'un plongeoir, comme dans une piscine, et que la piscine est vide, et qu'on met un portail en bas et que la sortie elle est au-dessus de nous dans un angle horizontal par rapport au plongeoir.
C'est beau, j'aime bien quand il explique ça.
Dans l'axe Y, on arrive sur la X tout simplement.
Maxime,
la synergie.
Prof de techno en 16e.
Je trouve que ça va à peu près pour l'instant. Et du coup, si on saute dans le portail qui est en bas, on ressortira en fait du portail en haut très 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 rapidement.
Qui lui est perpendiculaire par rapport à celui qui est au-dessus de nous. C'est très important.
Et du coup, on en sortira très vite. Et ça, c'est une idée géniale dans le sens où ça utilise des lois de physique, de notre physique. C'est facile à comprendre. Enfin, il y a peut-être un petit pas, je pense que ça dépend aussi de chacun parce qu'il y a un petit peu de projection à faire, mais ça utilise des lois de notre monde. C'est tu tombes de très haut, donc tu vas aller
une
très
fois
vite,
que tu as accepté la règle de base du portal et qu'on te dit ça marche comme ça, tu fais ça marche totalement. Et puis même il y a un plaisir de manipulation débile. Enfin, je sais pas, tout le monde je pense a fait deux portails côte à côte, jeter un cube dedans et le voir qui fait les petits allers-retours entre les deux et qui flotte, qui
est bloqué. Tu mets deux portails au sol qui sont tous les deux sur le sol et le truc va tomber en permanence.
Il y a en chat Schrödinger.
Et puis t'as aussi le truc où tu mets un portail au-dessus de toi, un portail en dessous de toi.
Exactement,
et tu tombes à l'infini.
Voilà,
ça c'est très très drôle.
Avec le petit son.
Mais jusqu'à, et d'ailleurs c'est ça où c'est logique, c'est jusqu'à atteindre une vitesse max.
Et
c'est, du coup c'est là, tu vois, le rapport avec la réalité, c'est que nous c'est pareil, on a toujours l'impression que les choses tombent plus ou moins vite, plus c'est gros, plus ça tombe vite. On le sait, c'est pas vrai. Mais là du coup, le jeu respecte ce genre de petites règles-là. Donc je trouve que c'est malin parce qu'il conserve certaines règles et certaines lois physiques de la réalité. Ils y mélangent des trucs et le mix des deux fait qu'on arrive à y croire très facilement.
Et juste, ça aussi, ça a dû faire le travail de tout un apprentissage, en fait, de la part de l'équipe des développeurs pour le faire comprendre aux joueurs, où on en revient à un niveau où on apprend cette mécanique pour la première fois. Alors tout d'abord, il y a les petites iconographies, là, avec les petits bonhommes, on le voit qui tombe et qui se fait éjecter très rapidement dans le portail. Et on est au-dessus d'une espèce de fameux plongeoir où il y a juste une surface en dessous de nous où on peut mettre un portail, et tous les rebords des murs, ils sont recouverts de la matière noire, là, sur laquelle on peut pas mettre de portail. Du coup, mécaniquement, il n'y a pas 36 choses
ça,
à faire.
L'introduction de la mécanique, elle est vraiment claire et nette, t'as quasiment pas le choix, et ensuite après ils te laisseront un petit peu plus te démerder, mais oui, en fait vraiment l'introduction de chaque mécanique se fait comme ça, mais surtout pour une mécanique comme ça qui est aussi clé et qui va servir tout au long du jeu, quoi.
Ouais, parce qu'après au moment où ils vont commencer à nous laisser de la liberté, et notamment dans la phase de fuite, dans la deuxième moitié du jeu où on essaye de fuir GLaDOS, il y a tout un tas de passages où il y a beaucoup de verticalité, on va souvent être en l'air, on va devoir tirer sur le sol et en même temps tirer pour savoir où est-ce qu'on va sortir, et là le jeu jeu commence à nous faire vraiment confiance en nous disant, bah voilà, on vous a filé les clés du bébé, démerdez-vous avec ça et amusez-vous. Et ça, je trouve que c'est très intéressant dans ce que tu disais tout à l'heure, Max, c'est qu'effectivement, c'est pas une mécanique de puzzle pour juste nous faire travailler le ciboulot et vérifier qu'on a le bon QI, c'est on vous donne une mécanique, éclatez-vous avec et on va résoudre des trucs et puis ça va être drôle, quoi.
C'est vraiment au même titre que le Gravity Gun, en fait, dans Half-Life 2, où, donc, pour rappel, c'est une arme où on peut attirer à nous des objets... plus ou moins lourd, c'est pas absurde, hein. On peut pas tirer des murs de maison, mais en gros, un des trucs les plus lourds qu'on peut ramener, c'est genre un radiateur, je pense, dans le jeu. Et il y a des puzzles déjà qui sont basés un petit peu sur ça, on va devoir tirer un petit peu des objets vers nous, mais du coup, c'est plus ou moins libre, il y a une certaine fenêtre en fait d'erreur qu'on peut faire, et évidemment, on peut s'amuser avec, on peut prendre des briques, des radiateurs, des scies, évidemment, ils nous en mettent de façon pas du tout innocente, et on peut les balancer à la tronche des ennemis, et en fait, on joue tout simplement avec une arme qui nous permet de faire des choses avec le monde, avec des règles physiques.
Et d'ailleurs, bon, du coup, on va pas trop dériver sur Half-Life 2, mais à partir du moment où tu chopes ce truc-là, tu peux presque arrêter de te battre et d'utiliser des armes conventionnelles, et tu peux quasiment utiliser que ce truc-là, quoi. Alors que dans Portal, c'est l'inverse. Là, ils ont pas laissé des objets pour qu'on fasse les cons avec. Mmh. Justement, tu le disais, c'est non, il faut que ça soit tout aseptisé. On est un rat de laboratoire et on doit se projeter dans cet esprit-là, quoi.
Bah, sauf quand tu fuis, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un moment quand même, il y a une certaine jouissance d'arriver enfin dans un environnement un peu plus crédible, moins clinique, et de se dire, attends, derrière une porte, ça y est, je peux mettre. Dès que tu vois un mur blanc, tu fais ok, là je peux mettre un portal en haut d'un grand tuyau. Là on le vit aussi beaucoup plus dans Portal 2 parce qu'il y a beaucoup de phases où on est dans des espèces de souterrains comme ça, et c'est vrai qu'il y a un plaisir un peu de transgression dans les trucs cliniques. Bon bah tu le vis parce que c'est un peu des tests, mais là t'as vraiment l'impression d'avoir ce pouvoir très très particulier avec le portal gun qui en plus a un feeling très très sympa, hein. C'est un gun, c'est pas pour rien, tu tires des espèces de boules, il y a des petits, le sound design est assez, est assez satisfaisant, donc c'est vrai qu'il y a ce côté très fun en fait, très très basique du fun qui est là, quoi.
Et juste pour rebondir là-dessus, il y a des puzzles que tu peux gruger avec justement cette mécanique du fling. Alors je pense que vers la fin c'est évidemment moins possible, mais dans Portal 1, il y a notamment, parce qu'il y a les petits challenges où tu peux avoir un nombre de, il faut terminer le niveau en un nombre de portails limité, et il y en a un en fait, c'est juste en genre 2-3 portails, ce qui est complètement impossible si t'es censé suivre la logique du jeu, parce qu'à un moment tu fais juste la mécanique du fling et hop, ça te propulse en fait là où il faut. Mais il me semble, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble qu'à ce stade du jeu tu la connais pas vraiment en fait, cette mécanique normalement.
Ça fait un peu référence à ce qu'on disait dans Céleste, hein, où quand tu finis le jeu une première fois dans Céleste et que tu commences le système des phases B, le jeu t'explique qu'il y a des nouvelles mécaniques dont il t'avait jamais parlé, et là il te les présente et il te les explique, et en gros il t'explique les cheat codes des speedrunners. Et bon, pour avoir commenté du speedrun et connaître le speedrun de Half-Life qui se termine en quelques minutes à peine, on voit rien, on comprend rien, hein. Quand tu connais pas le jeu, tu comprends pas ce qui se passe parce qu'on voit quasiment pas à l'instant où le personnage il chope le portal, c'est fini. Et effectivement, tu peux t'amuser à gruger le jeu. Il y a un truc que je trouve fascinant avec l'apprentissage se fait, et là c'est plus du level design et un petit peu une étude d'esthétique. On le sait maintenant, quand vous voyez un rebord blanc dans Tomb Raider ou The Witcher ou quoi que ce soit, vous savez que vous pouvez monter. Dans Portal, ils nous ont appris à reconnaître la couleur blanche comme étant l'endroit où on peut jeter les portails, et comme tu le dis, après notre œil il est naturellement attiré à chaque fois que tu vois du blanc, boum, tu vois ce truc là et
ça rejoint le thinking with Portal,
exactement
ce que tu disais.
Ouais, c'est vraiment là où tu te dis, bah en fait, développeur de jeux vidéo, c'est, il y a quand même une espèce de manipulation de notre façon de penser et de conditionnement du joueur qui est incroyable, hein.
Et juste du coup, pour la petite anecdote, par exemple les fameux boutons sur lesquels on peut mettre des caisses, on peut mettre des caméras de surveillance, on peut mettre des cadavres de tourelles, donc il y a autant, il y a comme disait Hugo, il n'y a pas cette surcharge d'objets parce que tous ces objets ils ont une utilité à part les caméras, mais ils en ont une pour l'ambiance au final, parce que c'est des trucs qui te fait, mais au final tu peux t'en servir pour gruger les puzzles et speedrunner le jeu.
Et alors ça c'est vraiment Portal 1, un petit peu Portal 2, mais à la fin, donc on parlait de ces fameux liquides avec le jeu étudiant dans lequel ça a été piqué. Bon, moi, c'est vrai qu'à ce moment-là du jeu, je commençais un petit peu à en avoir ras-le-bol dans le 2, parce que je trouvais les liquides un petit peu moins... En fait, le 2, le problème, c'est qu'il y a déjà ce problème d'être moins surprenant par rapport au premier, c'est-à-dire que si tu sais déjà jouer avec les portals, la première partie du jeu n'est pas forcément fascinante, même s'il y a quand même ces ajouts des petits murs invisibles et compagnie qui peuvent être amusants. Et il a une structure... En fait... Là où Portal fait vraiment une ligne droite crescendo jusqu'à l'affrontement avec GLaDOS, dans Portal 2, il y a au moins trois arcs, en fait.
Il y a plusieurs climax, et du coup, à chaque fois, tu redescends et tu repars de zéro. T'as le premier climax avec le combat contre GLaDOS, où tu mets Whitley à sa place. Et là, après, l'intensité du jeu tombe vraiment au niveau le plus bas, puisque tu retombes dans les années 40, machin, et tu repars avec les trucs.
Et encore, une fois que t'as fini toutes les années 40, parce qu'il y a plein de tests, en fait. répète.
Ouais, il y en a pas mal. Hein.
Tu repars encore sur une séquence de test, encore une fois, avec Whitley, où là, tu sais, t'as les espèces de trucs transporteurs, là, tu sais, l'espèce de faisceau jaune qui te permet de transporter des objets.
Ah, oui, exactement.
Bleu, orange, ouais, ouais, ouais. Bleu, orange en fonction.
Exactement,
du,
voilà, ils peuvent changer, ils peuvent soit attirer des objets vers eux, soit les enlever. Donc, t'as encore toute une séquence, donc t'as quasiment trois arcs comme ça, trois séries de tests, et c'est vrai qu'à la fin, en termes de rythme, je trouve que, oui, le jeu est un peu plus long, mais tu te répètes un peu plus et j'ai un peu plus de mal quand même.
Et, une des surprises aussi de Portal 1, comme tu disais, c'est le moment où tu arrives dans les coulisses.
Ouais, ouais.
Et ça, en fait, c'est aussi un changement de rythme en termes de mécanique, puisqu'il n'y a plus vraiment de puzzle. Alors, il y en a, je pense, vers la fin, mais au début, c'est beaucoup juste un peu d'exploration et de chercher l'endroit où tu vas mettre le bon portail. Mais il y a ce petit sentiment, tu vois, je m'échappe et puis il y a GLaDOS un peu qui sait pas où t'es, donc tu joues vraiment au chat à la souris. Et dans Portal 2, t'as ça en fait, quand tu retombes complètement dans les profondeurs, t'as vraiment des scènes, moi j'ai trouvé ça chiant, où ça consiste juste à trouver le bon endroit blanc pour pouvoir mettre ton portail, et parfois c'est super loin, tu vois, parce que t'es dans...
D'ailleurs le jeu te dit appuyer sur la molette pour zoomer,
parce qu'il va falloir
vraiment que tu zoomes pour trouver, c'est là, alors bon, il y a quand même un jeu qui est intéressant sur les éclairages, sur l'utilisation du level design pour orienter ton regard, je vous renvoie d'ailleurs sur une vieille émission Gamekult qui avait été faite par Stoon, qui était ici What You Did There sur Portal 2, qui est très bien, mais c'est vrai que, c'est un peu de la recherche, genre où c'est que je vais placer mon truc. Quoi.
Le jeu, il essaie aussi de t'impressionner avec un gros changement d'échelle, parce que c'est vraiment des environnements énormes que t'avais pas dans le premier Portal. Et le truc aussi, c'est que c'est un peu la conclusion de notre expérience avec Portal 2, c'est qu'il révolutionne rien en fait, il essaie d'itérer avec des choses qui étaient déjà faites dans le premier ou d'impressionner un peu avec la production value. Et comme on le dit, les portails, ça n'a pas changé, ils ont essayé d'apporter d'autres petits concepts autour de ça. Et en fait, aussi en termes d'environnement, donc Portal 1, c'était le mix de labos et des coulisses. Et en fait, Portal 2, dès le début, en fait, comme c'est l'entreprise, elle est complètement détruite, on est un peu dans un peu du post-apo entre guillemets, où la nature elle repousse un peu par-ci par-là, on passe un peu par des débris, des trucs comme ça, et tous les environnements sont un mix un peu de labos, de débris, puis il y a les nouvelles salles que construit Whitley, parfois il y a une scène à un moment, là on est dans la production value, où il en fusionne deux, je crois.
Oui, totalement, il y a un super mur beau, qui tombe, et il y a carrément un vieux collage dégueulasse entre deux gros cubes, qui est assez drôle,
Un truc que j'ai trouvé un peu en fait décevant, mais qui finalement est justifié un peu indirectement par l'histoire, c'est que comme on revient dans l'histoire d'Aperture Science, on voyait donc leurs anciennes découvertes qui étaient les fameux liquides, et ces fameux liquides, comme c'était un peu avant, tu vois, c'était un peu plus ancien et c'était moins drôle. Moi j'ai trouvé finalement que le fait de jouer avec les liquides, c'est pas aussi fun que de jouer avec les portails, parce que c'est pas toi qui contrôle totalement, c'est toujours un tube qui fait tomber le liquide à un endroit bien précis, et t'as pas en fait cette espèce de liberté qu'on a avec les portails. Et donc pendant toute cette partie-là, je trouvais qu'on se sentait un peu bridé, et c'est assez surprenant comme choix en termes de rythmique, parce qu'effectivement, on n'a plus cette espèce de montée crescendo dont on avait parlé. Là, tu fais tes portails, tu mets tes liquides. Alors c'est rigolo parce qu'ils ont quand même fait un énorme travail sur les feedbacks. Je crois que c'était toi, Max, qu'on avait parlé. Quand par exemple tu cours très très vite sur le liquide, ou quand tu sautes, t'as des bruits qui sont vraiment très bien faits. T'as ces espèces de musiques façon l'homme qui valait 3 milliards, etc. C'est vraiment super drôle à utiliser.
Ouais, en fait, à chaque fois que t'arrives à un puzzle où les gels vont être utilisés, t'as déjà une musique de fond en fait qui se met en place directement, alors que d'habitude t'en as pas. Et à chaque fois que tu rebondis sur le gel bleu ou que tu prends la vitesse avec le gel orange, t'as des sons en fait un peu, je sais pas, de synthé. J'ai pas le vocabulaire musical, mais t'as des sonorités qui rentrent en harmonie du coup avec la musique que t'as en fond, donc il y a tout ce soin apporté vraiment au sound design et à la musique.
Et je pense que du coup ça vient du fait qu'ils se sont rendus compte que cette mécanique là avait pas ce côté fun en elle-même, tu vois, intrinsèquement c'est pas aussi fun que d'utiliser les portails, et donc ils ont travaillé les feedbacks à fond pour rendre justement cette expérience là aussi plaisante, et en tout cas à un niveau ce qu'ils auraient voulu similaire par rapport au portal. Donc ça montre quand même, je trouve, vraiment le soin et l'expérience, on va dire, de Valve, qui s'est rendu compte que tu vois, tu cours tout seul, il faut qu'il y ait de la musique, il faut qu'il y ait du bruit. Si en soi le mécanique, le jeu lui-même n'est pas fun, et on va tricher, on va rajouter du son, on va rajouter du visuel, on va rajouter des trucs impressionnants où tu vas faire des bonds de 450 mètres grâce à la prise d'élan, etc. etc.
Rebondir sur une matière, enfin je veux dire, dans le jeu vidéo, c'est un peu la base. Tu vois, les champignons qui rebondissent, c'est pas non plus une mécanique très surprenante. Glisser sur un truc qui va plus vite, coucou Mario dans les niveaux dans la glace. Donc, c'est comparé au portail, tu vois, en termes de mécanique, on n'est pas du tout sur le même niveau de mind blow. Donc forcément, c'est vrai que non seulement ils sont que complémentaires au portail, parce que quand elles sont toutes seules, elles sont pas très très intéressantes. Et c'est vrai que en termes de rythme, en termes de surprise, tout simplement, en fait, est-ce que le jeu arrive à te surprendre ? pas forcément. Et après, bah, c'est vrai qu'il y a toute l'écriture aussi qui va peut-être être un petit peu moins intéressante avec cette partie sur Cave Johnson.
Alors, je suis pas forcément d'accord avec ça, mais c'est surtout que cette partie-là, avec les parties moins fun à cause des peintures, pour moi, elle est uniquement là pour servir la narration, justement. Tu vois, ça pourra nous servir de transition avec la suite. Moi, je pense qu'ils veulent juste développer la mythologie et le lore de l'univers de Portal, et donc ils sont obligés, entre guillemets, de nous raconter Cave Johnson et ses études, parce qu'on se re-retrouve dans la peau d'un testeur. On nous explique qu'au début ils utilisaient que des astronautes et des gens ultra qualifiés avec des niveaux d'intellectuels et d'athlétisme incroyables, et finalement bah, comme ils mourraient tous, ils ont pris des clodos et du coup ils leur font signer des décharges du genre on n'est pas responsable, si vous mourrez c'est votre faute. et nous on se retrouve dans ce rôle-là à nouveau de rat de laboratoire, et l'idée c'est plus de développer l'univers de Portal pour qu'on comprenne comment on en est arrivé à ce truc-là. Et ça, je pense que ça parle plus aux fans de Portal 1 plutôt qu'à des joueurs uniquement de Portal 2 qui vont pas forcément comprendre toute l'implication que ça a de savoir l'origine story un peu, tu vois, du truc.
Après, moi j'avais fait le 1 avant, je t'avoue que j'en ai un peu rien à taper, mais bon, ça c'est après, c'est peut-être moi qui est comme ça, mais le truc c'est que justement, à la fois comme t'as cette mécanique qui fait un peu surplus, moi en général, quand on part du principe où ça y est, je vais commencer à t'expliquer la backstory, et que finalement par rapport à l'arc narratif que toi tu as vis-à-vis de GLaDOS et Wheatley, bah voilà, ça vient juste nourrir un petit peu, c'est juste un peu du bonbon en plus, mais ça vient pas, je trouve que ça sert pas à grand chose par rapport au scénario tout simplement du jeu, quoi, et à son évolution.
Ouais, autant c'est drôle parce que ça, ils sont dans cette continuité un peu d'humour très 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 cynique. Avec toute l'histoire de Cave Johnson, parce que oui, ça raconte la chute un peu d'Aperture Science qui était face à Black Mesa, c'est un peu l'entreprise qui a perdu, entre guillemets, et il y a des expériences complètement débiles qu'ils ont réalisées, et t'as des voice lines, je sais plus, de Cave Johnson, t'as des trucs du style, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, la bonne nouvelle c'est que, je crois qu'on fait des expériences sur les mantes religieuses, la mauvaise nouvelle c'est que ça a pas du tout marché, prenez votre shotgun, on va à la chasse, tu vois.
Oui, il y a tout un délire, ouais, où effectivement ils ont réussi, ça a fonctionné, et vous êtes devenu un soldat, on va augmenter votre solde, ou un truc comme ça. La mauvaise nouvelle, prenez votre pompe, on a des mantes religieuses à tuer.
Et t'en as plein, t'as une salle de test où ils essayent un peu d'expérimenter sur le liquide contenu dans le corps humain, et il dit genre, il y a 70% d'eau dans le corps humain, il dit, je trouve que c'est trop, on va essayer de baisser ça. j'ai oublié un peu les punchlines relatives à ça, mais du coup ils ont fait un petit peu tout un humour encore autour de ces expériences là.
On en parlait pendant la présentation, c'est un peu le Donald Trump du coin, et c'est vrai qu'il a un peu cet humour un peu cowboy, tu vois, vraiment un peu, même si c'est le gros boss d'une boîte scientifique, il a vraiment des réflexions de cowboy, un petit peu, il va direct droit au but.
Ouais, c'est vraiment l'image du scientifique pragmatique quoi qu'il arrive, ouais. C'est genre la science avant tout, et du coup c'est un peu l'incarnation de la
du
personnalité.
Coup, je n'ai pas Donald Trump.
Non, mais dans le côté un peu,
tu vois, genre prenez votre shotgun, we're gonna take care of it, you know, there were a lot of noise, there were a lot of bang bang. Tu sais, quand ils ont déclaré qu'ils ont tué je sais plus qui cet été, ils faisaient des comparaisons entre Obama et Trump, enfin, c'était fantastique. Bref, mais tout ça pour dire que voilà, il est plus cowboy, c'est un homme d'action malgré tout.
Oui, voilà, c'est un homme d'action. Mais ça nous permet de faire la transition avec l'autre grosse partie de cet épisode où l'idée, nous, de Portal, c'est qu'il y a ce côté effectivement grand public du puzzle. Mais Portal, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on en retient finalement, c'est son univers, plus qu'encore son gameplay, parce qu'ils ont réussi à vraiment créer toute une mythologie qui s'inscrit, donc ça on l'a déjà vu, dans l'univers de Half-Life, et la grosse caractéristique, c'est que c'est un jeu qui est drôle, et ça, l'humour, dans le jeu vidéo, c'est quelque chose qui est manié assez peu souvent, parce que c'est souvent mal fait, et que c'est surtout très difficile, c'est très casse-gueule de faire de l'humour, parce que tu t'adresses à des gens qui viennent d'horizons divers, qui vont habiter dans des pays différents, qui parlent pas la même langue, qui ont pas la même culture, donc l'humour, c'est toujours casse-gueule, et pourtant, ils y arrivent, et ça, je pense que c'est l'une des très grandes forces de ce j'allais dire trilogie, mais il n'y a que deux jeux, donc Portal 3 confirmé. Je sais plus quel est le terme quand il n'y en a que deux, ce duo de jeux, non,
je sais pas,
ça me revient plus, il y a un terme, je compte sur vous sur Discord pour me reprendre. Mais voilà, ces deux jeux là pour moi, vraiment ce qui les différencie de tout le reste, c'est finalement cette capacité à faire rire, à être drôle, tout en ayant comme ça ce côté humour noir très présent.
Bah, c'est vraiment l'apport là des deux auteurs, parce que faut vraiment le savoir, en général quand on parle de, si vous demandez à des gens de vous parler de qu'est-ce qu'il faut faire sur la narration dans le jeu vidéo, on vous dit toujours qu'il faut commencer dès le début à penser son histoire, à tout ce qu'on veut raconter, et qu'il faut que ça vienne en même temps que les mécaniques de jeu. Là, pour Portal, c'est pas du tout ce qui s'est passé, puisque le jeu et la plupart des mécaniques, même la plupart des niveaux, en fait, ils étaient finis avant même qu'on commence à avoir cette histoire d'Aperture, de GLaDOS. C'est des choses qui sont arrivées assez tard dans le développement, même si, bon, ça s'est déroulé que sur 2 ans. Et c'est vraiment un enrobage qu'ils ont fait, et cet enrobage, il arrive vraiment à tellement bien coller avec ce que le jeu veut raconter, cette histoire de rat de laboratoire et GLaDOS, évidemment, son personnage. Ils ont commencé un peu à l'écrire comme ça, en faisant un petit peu des vannes. Alors, c'est ce que Max appelle l'humour robot, cette espèce d'humour un peu pince sans rire, cette façon de nous déclarer des choses très très graves avec une espèce d'aplomb sans souci. C'est quelque chose qu'ils ont commencé à écrire au début, ça a bien marché et ils ont vraiment itéré dessus pour pouvoir dessiner tout le jeu, quoi.
Bah, comme a dit Benoît, tu vois, je pense que c'est un jeu qui peut faire rire beaucoup de personnes et un des défis de l'humour, c'est de faire rire des gens, quelle que soit leur culture, leur background. Et du coup, là, si t'es humain, A priori, tu peux comprendre la blague, parce que, je sais pas, au tout début de Portal 2, par exemple, t'as quelque chose du style, oui, pour vérifier si votre cerveau marche toujours bien, enfin, parce que t'es censé sortir d'un long sommeil cryogénique, et il dit quelque chose du style, oui, regardez cette œuvre d'art au tableau pour réveiller un peu vos sentiments, tu vois, et c'est complètement débile, et tu regardes pendant 5 secondes, et il dit, oui, on va au cas où vos sentiments ne sont pas suffisamment, je sais pas, émoustillés, ouais, on va vous rajouter une petite musique classique, et là, boum, t'as une musique classique qui s'enclenche et c'est complètement ridicule en fait, et en plus la musique classique elle est interrompue par un maxi buzzer dégueulasse et voilà, quand t'es humain en fait tu ris, tu comprends l'humour qu'il y a derrière. Un autre truc je pense sur lequel ils ont peut-être mis le doigt, je sais pas à quel point c'est conscient, mais c'est qu'il y a un truc qui est très important dans l'humour, c'est le rythme. Et dans le jeu vidéo, les dialogues, c'est compliqué, parce que très souvent, les deux personnages, les lignes s'enchaînent pas bien, tu vois, parce que ça, tu sens les fichiers audio, tu vois, qui s'enchaînent.
Bah, CF The Witcher 3, hein, bah, où tu oui, t'as oui, vraiment les coupures entre
tous les passages où, ouais, tu sais, t'as le personnage qui dit « Non, mais je pense que... » Oui, non, je ne te laisserai pas finir cette phrase. Tu vois, il y a toujours un petit blanc de quelques secondes, et ça, c'est quelque chose de très difficile à régler.
Pendant qu'ils parlent, ils croisent les bras, ils prennent des postures un peu complètement, enfin, absolument pas naturelles. Et là, du coup, c'est des monologues, en fait. Donc, c'est beaucoup plus facile, je pense, de faire de l'humour avec un jeu comme Portal que.
C'est GLaDOS qui t'envoie des punchlines, quoi.
Ouais,
tout et simplement,
Whitley aussi.
Ouais, voilà,
et seul,
Whitley
toujours,
aussi.
Mais même, du coup, dans Portal 2, comme Whitley, c'est pas un humanoïde, tu vois, il a pas une forme anthropomorphe, hein, il a pas des bras, des jambes, c'est juste une boule. Mais la façon dont il se déplace, c'est très ludique, tu vois, c'est très dessin animé.
Il y a un travail d'animation sur Whitley
qui est incroyable.
Encore une fois, oui, c'est ça. Vraiment, moi, en jouant à Portal 2, je pensais vraiment à Pixar, parce qu'encore une fois, ils arrivent à donner de la personnalité. Même GLaDOS, son corps là de robot, quand tu la vois se déplacer, te regarder, t'as vraiment l'impression d'être espèce d'entité.
Ouais, t'as un truc un peu reptilien qui se déplie, qui te regarde.
Donc, bien sûr qu'il y a un travail d'animation et qui personnalise, qui donne du corps à ces personnages.
Parce
quoi.
Que Whitley, ouais, t'as qu'une lumière en fait pour symboliser son œil, mais en fait, ils ont aussi la paupière, en fait, petits volets métalliques autour des paupières, et du coup ils peuvent lui faire écarquiller l'œil, le faire un peu froncer, tu vois, les yeux, ils peuvent transmettre de la nervosité parce qu'il peut trembler un peu sur lui-même quand il réfléchit, il va regarder en bas, à gauche, à droite, tu vois, il y a vraiment tout ce travail juste sur ça.
Ouais, c'est ce qu'on a retrouvé avec Wally, en fait, tu vois, c'est vraiment le délire, et pour les plus vieux qui nous écoutent, tu vois, la référence, c'est Short Circuit, hein, dont Wally s'est inspiré, non ?
Okay, bah,
appelez-moi Johnny 5, vous avez pas vu ce film-là des années 80 ?
Ok, boomer.
Mais j'en ai marre de ça, mais c'était un excellent film des années 80. Vous voyez, avec je sais plus quoi, Gutenberg, je sais plus comment il s'appelait le gars. Vous avez pas vu ce film avec le petit robot? Je vous montrerai. Mais bon, du coup, Wally, en fait, il ressemble à s'y méprendre à ce robot-là, et voilà. Et donc, effectivement, il avait aussi des petites paupières, tu vois, parce que ça fait partie des expressions humaines qui, les yeux, la façon dont ils vont, tu vois, se fermer, etc. C'est un truc assez universel pour exprimer des émotions. Donc, t'as pas forcément besoin de bouche, et Whitley l'exprime très bien. C'est juste un œil, et il a pourtant des émotions. Et je trouve que ça, tu vois, ça fait partie de ce travail-là d'animation et de recherche en termes de narration qui nous donne quand même des indices assez incroyables sur le travail que ça a représenté Portal 2.
Et puis, bon, dans l'écriture, c'est évidemment pas des IA dans le sens conventionnel du terme, hein, ils ressentent des choses, ils peuvent ressentir de la douleur, des émotions. Bah, GLaDOS, on dit, elle a de la rancune. Après, c'est un peu canon dans le sens où il y a ces modes là qui sont rajoutés et qui sont censés rajouter, mais ça donne aussi des moments drôles, en fait, ce fameux humour robot. Je sais plus, t'as juste GLaDOS, elle dit je pense que nobody ever made me into a potato. En plus, je sais pas, le mot potato, je le trouve drôle quand il est prononcé par quelqu'un comme GLaDOS.
C'est vrai, quand elle est transformée en pomme de terre, c'est quand même assez rigolo, et il y a ce décalage, évidemment, entre qui elle arrive. En plus, il y a un moment, elle dit, je peux même pas mentir parce que j'ai pas assez de
elle a pas assez de ouais, elle a pas assez de jus, hein,
de patates pour pouvoir la
et avant ça, du coup, pour la petite précision, on envoie des patates, tu vois, qui donnent l'air, où c'était genre bring your daughter to work day ou un truc comme ça, ou bring your kid.
Ah oui, c'est vrai.
Et on a des horloges avec des patates, et Whitley, il fait des vieux commentaires du style, ah, une horloge avec une patate, vachement original, c'est lui qui a dû gagner. dernier, tu vois. Enfin, ils se moquent un peu des projets des enfants. Et après, t'as genre, ah ouais, un volcan avec du sulfate de machin. Enfin, tu sais, ils se foutent la gueule. Et après, tu retrouves la patate avec la dose dedans.
Puis, ce qui est intéressant aussi avec toute l'écriture dans Portal, c'est que le fait, comme on incarne en fait un rat de laboratoire, tout ce que les personnages vont nous dire, que ça soit GLaDOS ou Whitley, ça marche toujours avec le personnage, et ça marche aussi bien souvent avec le joueur, avec la personne qui est en face de l'écran, le joueur, la joueuse, hein, on est inclusif ici, même si ça ne plaît pas à tout le monde, ça je le sais, sur Twitter, on m'a déjà repris, mais bref. Et c'est vrai que ça marche, il y a toujours ce double discours, et ça, bah, ça donne forcément d'autant plus de force à toutes ces punchlines et à toute la narration. Quoi.
Parce que du coup, quand elle s'exprime, souvent GLaDOS, et dans le premier, moi ça m'avait fait beaucoup rire, parce que bah, là, on est vraiment dans une relation très basique. Les premiers temps, GLaDOS, on a l'impression qu'elle suit son script, mais t'as tout ce délire, tu sais, où elle te parle, elle te raconte un peu son histoire, elle essaye de te féliciter, et du coup ça marche effectivement, il y a le côté où elle peut te parler à toi qui est en train de résoudre l'énigme et elle te félicite, ah bravo, tu vas faire la fierté de ville du sujet machin, enfin ouais, etc, qui laisse un peu penser à la fois le délire script, mais ça fonctionne pour le joueur, donc moi ça me donnait ça m'encourageait en fait à continuer, et dans le 2 on retrouve ça, alors là ils sont éclatés hein, parce que du coup le double discours il est quasi permanent quoi.
Non, et puis surtout qu'il y a aussi une certaine moquerie, on va dire, des codes du jeu vidéo, la fameuse récompense du feedback loop, et ouais, là se dire que t'as un robot
gâteau,
qui se moque de ça, voilà, donc qui se fout un peu de ta gueule. C'est vrai qu'il y a un discours assez intéressant, assez méta par rapport au jeu vidéo et à notre façon d'être toujours très, très célébré en tant que joueur, d'avoir réussi à faire le premier truc, tu sais, ça clignote de partout.
Ouais, ouais,
et
t'as
tout.
Des succès dans tous les sens, voilà, genre vous avez appuyé sur A.
Bon, là il y a encore des succès dans Portal, mais malgré tout, t'as GLaDOS qui dit oui, bravo, vous êtes vraiment très très fort. Enfin bon, c'est vrai que ça marche bien et ça participe aussi à donner une identité au jeu et à le séparer de beaucoup d'autres propositions.
Et puis c'est aussi ça la récompense en fait, quand tu
oui,
termines un puzzle,
une, hein,
c'est,
vrai,
vraiment,
voilà.
c'est vraiment systématique dans Portal 2, où dès que tu finis un puzzle et que t'arrives à l'ascenseur, c'est vraiment un checkpoint, puis c'est toujours un peu old school, t'as vraiment des temps de chargement à chaque ascenseur aussi, bah t'as vraiment la ligne de GLaDOS et t'es content en fait, tu vas à l'ascenseur, tu vas dire ah, qu'est-ce qu'elle va me dire cette fois-ci, donc l'écriture elle est vraiment centrale.
Même si encore une fois je trouve que, encore une fois dans Portal 2, bah quand t'as fait 90
ouais,
sets de tests,
peu...
c'est vrai qu'à chaque fois la punchline, bah encore une fois ça manque de surprise finalement, et comme tu t'y attends trop et que le jeu bah non plus, enfin voilà, sur 90 salles c'est toujours plus difficile de diluer de l'humour que sur 20 ou 30 salles, donc forcément je trouve que là encore il pêche un peu là-dessus quoi.
Je trouve que c'est vraiment une question de format qui est assez intéressante à se poser sur la longueur d'un jeu et le fait que Portal fonctionne aussi extrêmement bien parce que tu peux le faire en une seule session.
Ah ouais,
et Portal 2, comme tu sais pas sur combien de temps tu vas y jouer, ben eux ils continuent leur histoire comme si tu allais jouer 8 ou 9 heures d'affilée, et ils prennent jamais en compte le fait dans leur écriture, mais c'est évidemment extrêmement difficile de faire ça, de prendre en compte le fait que les gens vont peut-être le faire sur une semaine, 15 jours, 3 semaines. Ça, c'est un des gros problèmes que se posent pas mal de développeurs de plus en plus ces dernières années sur comment on peut faire. Il y a, par exemple, tu vois, je fais une petite parenthèse sur une discussion que j'avais suivie sur Twitter entre plusieurs devs que je trouvais pertinente, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un truc, quand tu arrêtes un jeu pendant plusieurs semaines, que tu aies une espèce de petit tuto qui te rappelle ce que c'est, parce que souvent, comme tu as joué à d'autres choses ou tu as fait d'autres trucs, tu as oublié comment ça fonctionne. Là, dans Portal, ça va, a priori, tu t'en souviens. Mais le jeu, il reprend comme si tu n'avais jamais arrêté. Donc le fait d'avoir dilué la même histoire, une histoire qui aurait pu tenir en 2 heures, comme dans Portal 1, là, ça dure à peu près 7-8 heures, je crois, le 2 de mémoire. Comme c'est quasi impossible de le faire en une seule fois, pour les gens qui ont autre chose à faire que jouer aux jeux vidéo toute la journée, en général, tu ne vas pas faire le jeu en une seule session. Forcément, je trouve que ça a moins d'impact, finalement.
Ouais, et puis même, enfin, moi je trouve que ce qui est fou, c'est que Portal, voilà, c'est sorti en 2007, et enfin, ils étaient vraiment dans le turfu en termes de format, et j'insiste.
Ça veut dire
sur
futur,
Non,
pour
mais
les...
vraiment, parce que aujourd'hui, moi, je suis plutôt du genre à célébrer les jeux qui sont comme ça dans la justesse, de se dire, bah voilà, on essaie de viser 2-3 heures de jeu avec une histoire qui est très très bien rythmée, des mécaniques qui se renouvellent, c'est très bien ciselé, tu vois, c'est pour ça que j'adore autant Inside, par exemple, c'est pour ça aussi que les Walking Simulator, ils ont ma sympathie, parce que ils ont cette façon-là de construire les jeux, et là, c'était en 2007 et il avait déjà tout ça quoi. Donc forcément c'est vrai que je joue là, moi Portal 2 je l'ai fait il y a quelques temps, je l'avais pas fait, bah forcément j'ai l'impression d'un jeu qui est paradoxalement d'une époque d'avant, et que Portal était plus en avance, qui correspond plus au temps de maintenant quoi.
Et ça s'explique justement par le contexte de sortie de Portal, parce que quand il est sorti en 2011, c'était la grande époque de célébration des TPS, grand spectacle, des Uncharted, des machins, et donc bah ils voulaient faire un jeu plus ambitieux avec donc un scope un peu plus grand. Bah du coup ils font quoi, ils font un jeu avec des grands grandes séquences d'action. Je veux dire, le début, c'est quand même vraiment l'éclat. Enfin, ça déborde de présentation technique. Ouais, ouais, c'est vraiment, ça va dans tous les sens, ça saute partout. Il y a des trucs qui explosent. Tu vois des salles gigantesques. Après, t'as toutes les phases en toboggan là, de façon Aqua Splash, où tu te balades dans les tubes. Ça va très très vite. Ça ne s'arrête jamais. Et donc, bah forcément, ce côté grand spectacle là, il colle finalement avec l'époque de Portal 2.
Alors que l'espèce de justesse, le côté un petit peu expérimental du premier, finalement encore aujourd'hui, c'est vraiment le genre de choses que je peux rechercher chez des jeux indépendants. Et finalement, Portal, même si ça a été sorti par Valve, donc c'est pas tout à fait indépendant, mais dans son format, dans sa création, ça correspond à ce.
Ils se financent eux-mêmes, hein, quelque part. C'est pas une société cotée en bourse, hein, donc ils possèdent 100% de leur part.
Ah oui, mais ils sont indépendants.
Ils sont complètement indépendants.
Les
petits artisans.
Non, mais voilà, un jeu fait par une petite équipe de 10 personnes, avec tout ce soin-là, à la fois sur l'écriture, le gameplay. Clairement, c'est le genre de jeu qu'on célèbre aujourd'hui.
Et juste l'écriture, l'autre chose qu'on peut évidemment souligner, à part l'humour et vraiment l'écriture des dialogues à proprement parler, c'est vraiment cet univers cohérent. c'est vraiment cet univers cohérent, je vais y arriver. où tu fais des puzzles, mais en fait tu incarnes un personnage qui fait ces puzzles là en fait, et ils ont vraiment réussi à créer cette convergence vidéoludique comme ça a pu être name drop dans le Discord.
Et ça rejoint en fait ce que disait Hugo, c'est-à-dire que en 2007 Portal, ça fait partie de ces jeux précurseurs qui font un ensemble vraiment, comme tu dis, cohérent entre le gameplay, l'univers, le level design, le jeu, bref, absolument tous les aspects du jeu, ils travaillent tous de concert pour donner un seul objectif qui est de t'amuser et de te faire passer un bon moment. Et ça, je pense que c'est finalement un de ces jeux qui ont marqué un peu le début de l'époque des jeux modernes entre guillemets, qui aujourd'hui c'est devenu une règle quasiment pas obligatoire, mais la plupart des grands jeux souvent, ou des jeux dont on va parler dans l'émission parce qu'on a beaucoup de goût, hein, comme chacun le sait, souvent c'est des jeux qui vont justement rechercher ça, cette espèce de travail qui fonctionne de manière parallèle entre l'histoire, il va supporter le gameplay il va renvoyer à l'histoire, etc. C'est des choses qui sont, je trouve, très modernes dans l'approche du jeu vidéo, et effectivement Portal était finalement un peu avant-gardiste. C'est assez rigolo de se dire ça aujourd'hui, il était peut-être critiqué par certains à l'époque pour différentes raisons, et en réalité avec le recul on peut se dire qu'il était simplement là avant tous les autres, et il a montré un peu la voie à beaucoup de choses.
Et puis même cette mécanique de portail, elle est iconique, tu vois, dans Super Meat Boy, il y a des niveaux avec des portails, dans Darksiders, il y avait des niveaux avec des portails, cette mécanique-là, en plus, maintenant, elle a atteint un stade, c'est peut-être presque même, elle peut rentrer dans le langage du jeu vidéo, c'est-à-dire que t'as des jeux vidéo qui peuvent mettre des portails dedans, et on saura ce que c'est, on saura comment ça fonctionne. Donc t'atteins un niveau de nourrir le médium comme Mario a pu le faire,
avec
les codes de la plateforme. C'est un jeu qui a donné à ce point-là au jeu vidéo. Quoi.
Et ce qui est super intéressant, donc pour en revenir un petit peu à ce qu'on disait au début, c'est qu'ils en ont fait quelque chose de grand public, parce qu'ils auraient pu faire des niveaux vraiment hardcore les portails à la Witness, c'est le jeu que je vais tout le temps citer de toute façon maintenant pour dire que c'est un peu le contraire entre guillemets, même si The Witness est aussi évidemment bien peaufiné. Mais Portal, c'est, comme on disait, l'expérience, c'est aussi une histoire, c'est aussi un univers, et en fait, je pense que la majorité des gens peuvent finir Portal sans vraiment galérer. Alors évidemment, il y aura toujours des gens avec qui ça va pas passer, ou parce qu'ils aimeront peut-être pas non plus, mais ils ont décidé, tu vois, qu'avec cette mécanique, ils allaient aussi faire un jeu qui va se terminer en 2 heures pour la plupart des gens, et c'est assez intéressant quand même comme façon de faire, et c'est l'occasion de rappeler que les playtests aussi sont ultra important.
Ouais, de ouf.
Quand on écoute un peu les commentaires des développeurs, ils ont tout playtesté, quoi. C'est vraiment, après, comme énormément de jeux, mais là, on est dans un studio qui a les moyens de le faire, qui a les moyens de mettre des playtests en face avec des caméras qui vont filmer les gens pour voir s'ils réagissent bien aux blagues et compagnie. Ça, c'est pas tous les studios indés qui peuvent le faire. Et on voit que beaucoup de choses, c'est de l'itération. Il y a beaucoup de moments où c'était, ce puzzle, il était un peu trop dur à comprendre. Du coup, on a mis là un petit trou dans ce mur en verre pour faire comprendre qu'on pouvait tirer un portail par là. Et parce que ce n'est pas un jeu qui se veut dur, c'est un jeu qui veut être terminé.
Et puis surtout, comme c'était une nouvelle mécanique, tu peux pas compter sur tous les autres jeux qu'on fait le taf avant toi sur l'apprentissage d'une certaine grammaire et compagnie. Donc c'est vrai que je pense que c'était vraiment le bon choix de faire un jeu facile entre guillemets, c'est-à-dire de pas trop poser de challenge, te donner quand même la récompense, le plaisir de jeu, et il y a quand même des moments où il faut se creuser un petit peu la tête, faut pas déconner non plus, mais c'est pas un jeu qui est là pour te mettre des murs dans la gueule. Et clairement, comme c'était comme c'est le premier qui a apporté cette mécanique, je pense que c'était vraiment le bon choix de le faire. Et en plus, en termes de vente, forcément ça se ressent quand tu fais un jeu qui est plus accessible pour vois plus de monde, bah forcément tu peux plus toucher une culture plus populaire, on va dire.
Sachant que dans le premier Portal, ils ont quand même gardé un peu cette exigence jeu vidéo entre guillemets de des challenge rooms où tu avais donc les salles de défi, on en parlait Max, avec différentes règles, le temps, le nombre de portails utilisés, etc. Donc tu peux quand même t'amuser si jamais tu veux aller rechercher quelque chose, y proposer voilà d'aller un petit peu plus loin si jamais le jeu en lui-même t'avait pas suffi, ça t'avait pas tu vois, t'avais pas eu ton fixe de Portal, tu pouvais aller un petit peu plus loin. Puis bon, évidemment après il y a tous les modes qui ont été développés. Alors je l'ai pas essayé, mais je vais le citer parce que les gens du Discord en avaient parlé. Il y a un Portal 2 qui s'appelle Mail Story, qui a priori est très populaire. Ouais, j'ai jamais eu l'occasion de le faire, mais ils ont refait toute une histoire avec les portails. Donc si jamais vous avez l'occasion de le faire et d'aller plus loin, bah n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Si un jour j'ai le temps, je le testerai.
Puis on n'a pas parlé du mode coop aussi.
Et oui, il y a le mode coop de Portal 2 qui est pas très long, mais qui en lui-même est vraiment intéressant parce que en termes de game design, on joue donc deux petits robots qui doivent s'aider. Donc ça fait qu'on a quatre portails en tout. Il y a deux nouvelles couleurs qui sont rajoutées. Et ce qui est très fascinant, c'est le côté communication. Comment on va réussir à communiquer avec l'autre personnage sans lui parler? Et donc, ils ont fait un gros travail là-dessus. Et je sais pas qui a fait la campagne coop. Tu l'avais fait,
ouais,
toi?
Je l'ai fait, hein.
Ça fonctionnait très bien, tu vois. C'était devenu très instinctif de pouvoir discuter et de donner des consignes, entre guillemets, à son collègue.
Oui, ça, en fait, t'as une roulette, enfin, une roue d'ordre ou d'indication que tu peux donner. Par exemple, tu peux dire mets un portail là, et ça va l'indiquer, en fait, vraiment à l'endroit où tu veux qu'il y ait un portail, et la personne le voit aussi dans son interface. Donc tu peux donner des petits ordres, tu peux dire attends là, moi je vais là-bas, enfin, ou juste montrer un endroit. Donc ils ont effectivement pensé à tout ça. Et sinon, juste pour l'anecdote, ils disaient toujours dans les commentaires des développeurs, un truc qui est assez simple, c'est que la coop, comme c'est un portal, se veut un jeu assez drôle et grand public, c'est pas évident en solo de vraiment comprendre quand est-ce que les gens trouvent quelque chose d'amusant, parce que tu restes de marbre en général devant ton écran. Et là, la coop, en fait, c'est l'éclat tout de suite, les gens qui sont en deux et qui collaborent et tout de suite, ils s'éclatent et ça rentre vraiment dans l'ambiance portal.
D'ailleurs, il y a un truc, j'ai regardé une conférence d'une level designeuse de chez Ubisoft, mais qui a fait toute une masterclass, en fait, où elle parlait de portail, et elle disait que justement, si on veut playtester des puzzles, c'est aussi très bien d'avoir deux personnes, de faire des playtests en couple, parce qu'en fait, bah, les gens, justement, comme tu le dis, quand ils vont résoudre le puzzle tout seul, bah, ils vont rester un peu de marre, ils vont réfléchir, alors que quand on est à deux, on va beaucoup plus élaborer sur notre façon de dire, ah tiens, en fait, on peut peut-être faire ça, ah oui, je vais essayer de faire ci, mais regarde si je fais cette solution, et en fait, en tant que développeur, t'as vraiment un retour beaucoup plus élaboré des playtesteurs, et ça te permet de bien mieux comprendre, en fait, le cheminement de pensée des gens. Donc voilà, c'était juste pour la petite parenthèse.
Ouais, de toute façon, Ubisoft, ils sont très connus pour ça, hein, leur User Research Lab, ils ont d'ailleurs, vous pouvez vous inscrire. Hein. Si vous habitez sur la région parisienne, à Montreuil, ils font souvent des sessions de playtest. C'est gratuit. Hein. Je veux dire, vous n'avez pas à payer. Vous devez signer des NDA et ils vous filent des petits bons d'achat Amazon. Et du coup, vous pouvez tester des jeux très régulièrement. Et vous venez pendant une journée, ils vous observent, hein, vraiment en mode rat de laboratoire. Et ils ne vous posent pas trop de questions, parce qu'ils ne veulent
méta.
Pas trop.
Ça ouais, devient ouais. trop méta.
Mais c'est assez rigolo d'imaginer ça. Mais du coup, ça leur permet beaucoup de savoir comment fonctionner. Et ils prennent énormément d'informations et de data à partir de ça. Donc c'est assez rigolo de voir que, bah oui, faire tester des gens et de voir leur réaction en direct, ça les aide énormément, quoi.
Et du coup, Valve, ils se sont appuyés sur toute cette expérience du playtest et du mode solo pour ne plus en faire.
Ouais, bah oui, du coup, ils ont arrêté les jeux après. C'est vrai que c'était le dernier truc, hein, on le sait, c'est devenu la blague, hein, maintenant, c'est légendaire. Il n'y a pas de Half-Life 3, il y avait eu la fameuse vidéo, je sais plus, j'en avais parlé il n'y a pas longtemps, là où Gabe Newell, il était censé faire un pack de voix pour Dota 2, et à chaque fois qu'il devait prononcer le mot 3, tu vois, il n'y arrivait pas, parce que du coup, il était physiquement impossible pour lui de prononcer le mot 3. Il n'y arrivait pas, c'est genre 2, plus que 2, mais moins que 4, tu vois, c'était devenu assez comique comme ça. Et du coup, ben, en fait, ils ont commencé en termes d'histoire, je crois qu'on en avait parlé pendant la... C'était toi, je crois, qu'on en parlait, Max, pendant la préparation. En gros, 2011, c'est Portal 2, 2012, c'est CSGO, et 2013, ça doit être Dota 2. Donc, du jour au lendemain, ils se sont dit, finalement, les jeux solo, ça rapporte pas des milliards à chaque seconde.
C'est bizarre, on rapporte 10 fois ce qu'on a rapporté à Portal 2, et on est mardi, tu vois.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est sûr que, bah, bon, déjà, il y a eu tout le business model avec Steam aussi, bon, bah, à l'époque de Portal 2, qui commençait déjà à être quand même bien, bien solide de ouf. Mais après, c'est vrai qu'il y a le modèle du jeu-service, tous les marchés, des items, des machins. Alors ça, c'est toutes les saloperies, je ne fous pas trop le nez dedans. Mais bref, je sais que ça génère beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et
surtout si vous avez de l'argent à blanchir. Non, mais c'est passé... Le changement de règles de CSGO est passé il y a quelques jours à peine. Hein, ouais. Ils se sont rendus compte, ah ouais, en fait, on blanchissait de l'argent avec CS. Bah oui, sans déconner. Ça fait des années que c'était mis en avant, mais bon, c'est
juste
pas grave.
Pour préciser comment ça fonctionne aux gens qui voient peut-être pas, mais via Steam, il y a un marché en fait où on peut mettre des skins de CS:GO ou des coffres ou des
les clés qui permettent d'ouvrir les coffres.
Ouvrir, voilà, ouais. Ils avaient initié ça, je pense, avec TF2. Je sais pas si un autre jeu le faisait avant. Peut-être. Je pense pas que c'est Source ou un autre.
Chez Valve, c'est le premier. Il y a eu un MMO dans les années 2000 qui avait une valeur fixe entre la valeur d'argent et la valeur in-game. Ouais. Qui s'appelait, je crois que c'était Project Entropia ou un truc comme ça. Enfin, vous aviez dû voir des histoires à l'époque où un type avait acheté une île et les gens lui reversaient une taxe dans le jeu. Et il avait acheté l'île genre 20 000 $, mais il avait rapporté, il en avait gagné 10 ou 15 fois plus, quoi. Mais en tout cas, chez Valve, ils ont en fait vraiment mis en place tellement de choses avec Steam, mais également pour les modèles de free-to-play, parce que CSGO et TF, ils sont dans le futur depuis des années, hein, en termes de modèles économiques, tout le monde les copie aujourd'hui.
Et TF2 était connu pour les fameux chapeaux, les hats, où tu pouvais tomber sur choses hyper rares, et en fait comme c'est un marché, les gens, en fait il peut y avoir de la spéculation, juste des gens qui sont hyper intéressés par ton chapeau et qui vont proposer des
mais comme tu pouvais les revendre à l'infini, du coup au bout d'un moment ça commençait à générer de l'argent, et surtout Valve y prenait une petite commission à chaque transaction, c'est-à-dire que si le chapeau il est vendu 1000 fois, il récupère quelques centimes fois 1000, etc.
Et forcément ça les a, j'imagine, un peu découragés d'investir dans leur partie développement de jeu, on va dire solo. Il y a eu même là récemment, ils avaient récupéré Campo Santo, donc les créateurs de Firewatch, ils avaient récupéré le fameux In the Valley of the Gods, et là il y a quelques jours on a apparemment constaté que, en tout cas dans la bio Twitter des leads de Campo Santo qui sont maintenant chez Valve, on voit que In the Valley of Gods n'est plus mentionné nulle part.
Le trailer aura disparu de la chaîne Campo Santo aussi.
Ah voilà, donc on est complètement
le jeu a été annulé.
Mystification, Houdini, ça a disparu, ça n'existe pas.
Et à la place, ils nous annoncent le Half-Life VR Alyx, qui du coup se passerait a priori juste avant Half-Life 2. De toute façon, Steam, ils ont eu un parcours, Valve, ils ont eu un parcours vraiment très particulier, parce que Steam a forcément changé complètement leur destinée, parce que je pense pas qu'ils avaient prévu dans les années 90 de devenir les leaders mondiaux de la distribution numérique du jeu vidéo. Mais du coup, c'est vrai que juste après Portal, ils ont commencé à vraiment, monétiser, mais plutôt capitaliser, sur leur jeu multi, et depuis, c'est ce qu'ils font. Ils ont essayé avec Artifact, ça a pas fonctionné, mais leur dernier gros jeu qu'ils avaient présenté, c'était Artifact, et ça a pas fonctionné, mais ça restait en jeu multi.
Ils avaient testé aussi avec Dota 2 un truc Underlord, je crois, une espèce de jeu un peu tactique dans l'univers de Dota, mais aussi un truc gratuit multijoueur. Aussi un truc multijoueur gratuit qui, à ma connaissance, n'a pas vraiment marché.
D'accord. Mais voilà, du coup, Valve, effectivement, c'est vrai qu'ils ont un peu lâché.
VR,
vont essayer, je pense, avec la VR. Donc, c'est intéressant que ça tombe finalement en termes de timing, ça tombe bien avec notre épisode. Donc, on remercie Valve de nous avoir écoutés, comme d'habitude. Mais du coup, je suis curieux de voir ce que ça va donner par la suite. Parce que c'est vrai que Portal, ça donnait quand même beaucoup de possibilités. Et je trouve qu'encore aujourd'hui, malgré tous les reproches que je peux faire à Valve par rapport à Steam, je trouve qu'en termes d'écriture et d'intelligence de l'écriture, tu vois, je râlais il n'y a pas longtemps sur Death Stranding. Là, pour le coup, Portal 2, c'est un jeu qui était quand même extrêmement malin, le 1 aussi. En termes d'écriture et de création d'univers, Valve, c'est des gens qui étaient quand même à part, et je trouve ça effectivement un peu triste. Je peux comprendre les gens qui soient déçus à chaque fois qu'il n'y a pas d'annonce de Half-Life 3, parce que c'est vrai que je serais curieux de voir ce que les gens, parce qu'en plus, il y a pas mal de monde qui a quitté ou qui est revenu à Valve, des vieux, de la vieille, de chez Valve, ils y sont encore, donc c'est des gens qui potentiellement en ont encore sous le pied et qui pourraient peut-être encore nous surprendre, donc peut-être un jour, on sait pas.
Il me semble que la philosophie là-bas de travail, c'est un petit peu, tu bosses pas vraiment sur un projet, mais c'est plus tu vas déterminer en quoi ce que tu sais faire peut-être le plus rentable pour l'entreprise, tu vois, c'est un petit peu plus dans cette démarche là et donc forcément quand ils sont en full multijoueur micro-transaction, la politique de l'entreprise fait que tu vas pas te diriger vers un projet solo, et puis il y a d'autres choses, d'autres modes de fonctionnement qui fait que tu dois collaborer avec des gens qui ont pas forcément envie de bosser sur le projet sur lequel toi t'as envie de bosser, donc c'est un peu c'est tous les problèmes liés à une structure aussi horizontale, mais on verra ce que donnera Half-Life Alyx. Après, ce qu'il y a potentiellement derrière Half-Life VR, c'est que il y a aussi peut-être une démarche intéressée, tu vois, parce que comme nous on en a parlé un peu entre nous au-delà de simplement sortir un jeu solo, puisque le HTC Vive, c'est Valve aussi qui est derrière, et du coup ils essaient de push un peu la VR en créant du coup des produits d'appel dans les lesquels ils ont un intérêt. Donc après, peut-être qu'ils feront des super jeux solo sur VR, mais là, moi, l'impression que j'ai, alors peut-être que je vais complètement me planter parce que le jeu sort, mais on, voilà, on n'a pas,
on l'a pas encore vu,
encore joué, ouais. Mais tu sens, enfin, moi, je sens que c'est plus un jeu pour un marché que vraiment juste pour être une expérience, tu vois.
A priori, bah, de toute façon, c'est ce qui, c'est juste leur petit tweet pour l'instant, c'est ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent flagship, hein, c'est le terme de porte-étendard. Je pense qu'ils veulent en gros essayer de marquer, tu vois, d'un premier jalon les jeux de la VR, parce que encore une fois, la VR jusqu'à présent, elle attendait un peu son jeu.
Bah, on l'attend toujours.
On l'attend toujours. Peut-être que ça sera celui-là, on n'en sait rien. Pour revenir quand même sur Portal, parce que sinon l'émission va durer 83 heures, on est désolé. Je sais pas d'ailleurs combien de temps elle a duré, mais je suis sûr que c'est le bon timing.
Oui, oui. Je commence à le sentir.
Moi, ce que j'ai trouvé très cool avec Portal, c'est que finalement, ça a donné naissance donc à la fois à cette idée de convergence entre le gameplay, la narration, etc. Mais ça a donné aussi naissance au genre des puzzle games qui ont du coup retrouvé une certaine santé grâce à ça. Je veux dire, derrière, on a eu Quantum Conundrum, on a eu Antichamber, on a eu The Witness, on a eu tout un tas de jeux de puzzle à la première personne. Il y a eu Talos Principle aussi, il y a eu Manifold Garden il n'y a pas longtemps, Sojourn, voilà, comme ça j'en ai cité quelques-uns, les gens sont contents, et qui reprennent finalement le même principe, c'est-à-dire une mécanique qui laisse beaucoup de liberté aux joueurs avec lesquels ils vont pouvoir s'amuser, faire les cons, tu vois, expérimenter, essayer des choses, et on les laisse rigoler. Là, il y a Superliminal qui est sorti il y a vraiment pas très longtemps, qui s'amuse à jouer avec la perspective, et c'est pareil, on retrouve, je trouve, exactement le même genre d'idée. Ça a donné pour moi aussi naissance Portal. Sans Portal, on n'aurait pas eu un jeu comme The Stanley Parable. Ouais, donc j'espère un jour.
J'étais en train de googler.
C'est vrai, t'étais en train de regarder. Putain, voir, c'est beau. C'est high five. Ouais. Comme ça.
Et hop, c'est 2013.
C'est sorti juste après, et effectivement, je trouve que ça reprend tout ce cynisme et tout cet humour, mais appliqué avec une autre idée. Et du coup, bah, Portal, tu vois, vraiment, avec le recul aujourd'hui, un peu plus de 10 ans après, pour moi, c'est vraiment un jeu charnière.
Ouais, c'est un
vidéo.
Jeu vraiment très très important. Ouais. Bah oui, un jeu, ouais, un jeu précurseur. Voilà, moi, j'en reviens toujours pas en fait que ça soit sorti en 2007. Franchement, tellement c'est un jeu que je trouve moderne et que je trouve pertinent à jouer aujourd'hui pour plein de raisons. Et ouais, c'est bien qu'on ait pu enfin en parler. Ça y est, c'est fait. On a fait Portal, tu vois. On peut le ranger de l'autre côté de l'étagère. Et voilà.
Mais du coup, avec cette émission, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on, tu vois, j'aime bien parce qu'au fur et à mesure, là, on en est à l'épisode 23. Si je dis pas de bêtises, ça sera bientôt d'ailleurs un an. Voilà. Si vous voulez nous envoyer des gâteaux. ça ne sera pas un mensonge, on sera très content. Et je trouve qu'on arrive petit à petit à faire cette espèce d'histoire du jeu vidéo en essayant non plus, tu vois, de les classer par 16 bits, 32 bits comme un espèce de truc objectif comme c'était le cas, mais j'aime bien cette idée qu'on a de réfléchir un petit peu à ce qui s'est passé en termes de création, etc. Et Portal, je trouve ça super cool parce que le fait d'y avoir rejoué et d'en avoir parlé comme ça avec vous, ça me permet de me dire, ah oui, à quel point, en fait, ce jeu-là, il a apporté quelque chose à un instant T. Et bah, du coup, j'ai hâte de voir un petit peu ce qui nous réserve par la suite. Valve, bon, malheureusement, je ne m'attends pas à grand-chose, mais en tout cas, je me dis, bah, peut-être que dans quelques années, tu vois, un des jeux dont on a parlé déjà, on pourra revenir un petit peu en arrière en se disant, putain, c'était vraiment lui, il avait apporté tel truc. Donc voilà, moi, je suis content qu'on ait plus parlé de Portal. Refaites-le, si jamais c'est pas le cas. Refaites-le 2 en coop, faites-le sur votre canapé.
Oui, moi,
avec...
j'ai pas encore fait la coop, je pense que je vais essayer de le faire avec les gosses, voir. Si
ah, tu vas voir, c'est vraiment excellent, c'est vraiment quelques très
faire.
Bonnes heures de jeu.
Yes. Eh bien, écoutez, merci messieurs. Je crois qu'on a fait le tour. On vous renvoie une nouvelle fois sur notre Patreon parce que vous pouvez envoyer des gâteaux, mais les sous, c'est mieux parce que le loyer. Enfin, moi, mon propriétaire ne prend pas les gâteaux.
C'est vrai.
Non, ouais.
Et l'échec passion. Non plus. Prend pas
encore
la passion.
Encore moins.
La passion, il prend pas. Non.
On remercie également Third Edition pour leur sponsoring, pour nous donner un petit coup de main. Et puis, ben, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Oui, c'est bon, dans 2 semaines. Il y a pas de.
Oui, là, il y a plus
d'épisode.
Bon.
On est bon jusqu'à. La fin d'année.
Ouais, c'est bon, fin d'année. En plus, on a
encore 2 épisodes.
Je veux pas balancer, mais on a un programme là. Le prochain épisode, attention.
Si vous êtes sur Discord, vous savez de quoi on va parler. Et puis, bah, merci beaucoup. Salut.
Salut.
Ciao.